There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Je dirais que c'est un monde sale. Et je pèse mes mots. Il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de coups bas. Les enjeux sont très, très, très importants. Dans notre domaine, on appelle ça creuser des tombes. J'étais plus personne techniquement, je pleurais, je faisais des insomnies, j'avais des moments où je faisais des crises, je déchirais même mes vêtements, enfin voilà, c'était très 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 difficile. J'aurai toujours l'Algérie dans mon cœur, ça c'est clair, et j'espère être une bonne ambassadrice de ce beau et grand pays. Ton passé n'a rien à voir avec ton avenir, si tu décides d'en faire quelque chose de beau. Quand je disais aux gens mes rêves, ils disaient « Ouais, mais t'es folle, mais t'es qui ? T'es personne, t'es la fille de personne. »
J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'émeut.
Beaucoup, ouais.
Pourquoi ?
Pardon. Non, c'est...
Dans cet épisode, je reçois Farah Yasmine, une journaliste et animatrice reconnue et respectée dans tout le monde arabe. Et cet épisode est en partenariat avec le Hayat Centric Jumeirah à Dubaï, notre partenaire pour cette série spéciale Middle East. Parce que oui, à la base, cet entretien devait se faire à Dubaï. Bon, finalement, il se fait ici, à Paris, ce qui n'enlève en rien à la qualité de cet échange, vous allez le voir. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec Farah et je suis sûre que vous allez beaucoup apprécier aussi. Farah Yasmine, journaliste et animatrice, tu as construit une très très belle carrière ces 10 dernières années en te faisant un nom sur la scène médiatique en Algérie puis à Dubaï. Tu es également très présente sur les réseaux sociaux avec plus de 3 millions de personnes qui suivent tous les jours tes aventures. Tu es une femme reconnue et respectée dans ton domaine. On te surnomme même El Kassira, la fonceuse. Donc j'ai hâte de découvrir qui se cache derrière la personnalité publique. C'est un immense plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Bienvenue dans le Manal Show.
Hello Manal, merci. Oh franchement, c'est super beau ce que tu viens de dire. Je ne savais pas que tu savais qu'on m'appelait El Kassira.
Est-ce que je l'ai bien prononcé ?
Tu peux le redire ?
El Kassira.
El Kassira, parfait. Je te donne 10 sur 10. Ouais. Un plaisir d'être avec toi. Ouais, franchement, un plaisir d'être avec toi. J'aime beaucoup ton podcast et puis... Là, on est en vrai.
Allez. Ouais, c'est ça. J'avais hâte en tout cas de te rencontrer.
C'est gentil.
Alors Farah, dis-moi, qu'est-ce qui t'amène ici à Paris ?
Oui, écoute, c'est la vie, tout simplement. C'est les belles choses de la vie. C'est les belles étapes de la vie. Voilà, c'est ma vie perso, ma vie privée qui m'amène à faire de belles choses en ce moment. Voilà. Tu sais que j'ai plein de surprises tout le temps. Moi même les gens les plus proches me disent mais Farah, t'arrives jamais vraiment à avoir un plan, mais vraiment à long terme ou à moyen terme, les 6, 7, 8 prochains mois. Si, j'en ai, mais j'ai toujours des surprises. Et j'ai appris à faire avec. Et j'aime. Tu sais que ça me stimule, j'aime beaucoup, moi.
T'es pas quelqu'un qui te fixe des objectifs à long terme ?
Si, je le fais, bien sûr, dans ma carrière. Sinon, il faut être stratégique, sinon on n'arrive pas à faire... Ouais. Une carrière solide, c'est pas ça, mais j'aime aussi avoir des petites surprises par-ci, par-là. Parfois, elles sont pas bonnes, parfois, elles sont bonnes, mais je les prends comme des défis. Donc, il y a des gens que, par exemple, tiens, mon mari, ça le frustre, il me dit « Ah, tes surprises, là, me frustrent !» Moi, j'aime bien.
T'es quelqu'un de plutôt spontané, quoi.
Très spontané. Très, très spontané. Ouais.
Je sais que tu as fait le choix de faire un break d'un an. Tu as pris une année sabbatique. Je trouve ça hyper intéressant et j'aimerais beaucoup savoir déjà la raison de ce break. Pourquoi et qu'est-ce que tu as fait de ce temps libre?
Et je suis à Paris. De ce temps libre, je suis là. En fait, tu sais, Manal, après, allez, on va dire 10, 11 ans, j'avais envie de faire un petit break et de faire une petite rétrospective, revoir ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, ce que je voudrais aussi faire, reprendre d'autres virages éventuellement. Je me rends compte que pendant des années, j'ai pas du tout pris le temps pour Farah la femme. Farah la femme, tu vois. C'était plus la journaliste, l'animatrice, une guerrière, comme tu m'as appelé, le casser. C'est-à-dire, j'étais là, je voulais toujours avancer. Moi, je me disais, j'ai pas choisi mon passé, ni mon présent, qui était très bien, il n'y a pas de problème, mais je choisis mon avenir. C'était vraiment ça le principe depuis le jour, the first day, quoi, depuis le premier jour. Et du coup, ça a demandé beaucoup de travail. Quand tu commences dans un domaine très difficile comme le domaine médiatique, journalistique, j'ai fait de la télé, la radio, la presse écrite, le web, en Algérie, après je suis partie à Dubaï. Il faut avoir la tête bien solide et les épaules aussi. Et donc du coup, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie et on se perd parfois, on s'oublie parfois.
C'est vrai.
Ouais. Et donc moi, j'ai pensé à tout et à tout le monde, mais vraiment tout et tout le monde, mais pas à moi. Au final. Et à un moment donné, je me disais, ok, c'est bien beau tout ce que tu as fait, tout ce que tu as entretenu, pardon, mais il est peut-être temps aussi de penser à Farah, la femme. Peut-être penser à moi. Et voilà, j'ai fait une petite pause pour... Et puis, tu sais, la période de la pandémie m'a beaucoup affectée. C'est vrai que c'était très, très, très difficile pour moi. J'étais loin de ma famille, j'étais bloquée, mon pays a fermé les frontières. Et donc, du coup, moi qui suis très, très, très famille, je me suis retrouvée seule à l'autre bout du monde, oui et non, parce que Dubaï, c'est aussi chez moi, mais j'étais sans ma famille et la famille est super importante pour moi. Donc, du coup, j'étais un peu perdue. Une fois que toute cette tornade, on va dire, a pris fin, je voulais aussi prendre le temps de me reposer, respirer et faire un beau et grand pas dans ma vie privée, à savoir le mariage. Voilà.
D'ailleurs, félicitations pour
Merci.
Ça.
Merci.
Bah oui, c'est une grande étape. Hein.
Mais c'est pour ça que j'ai fait une petite pause. Ouais,
c'est pour ça.
Oui, c'est pour ça.
C'est
ouais.
ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a eu une situation, quelque chose en particulier en fait, qui a été un déclic?
C'est pour ça que je t'ai dit, que tu m'avais dit qu'est-ce qui t'a amené ici à Paris quelque part. Mais je t'avais dit, c'est de belles choses de la vie, c'est les belles surprises de la vie. Et voilà. Et donc, c'était mon mariage. Ouais.
Durant cette année sabbatique, moi déjà je trouve ça génial de pouvoir prendre du temps pour soi. Honnêtement, c'est un luxe aujourd'hui. Hein. On
absolument,
est toujours à 100
absolument,
à l'heure.
Absolument. Ouais.
Et c'est quelque chose, tu vois, j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais c'est quelque chose que j'aurais aimé faire par exemple après avoir obtenu mon bac. Moi je trouve qu'on met beaucoup la pression sur les étudiants pour les études. Et au contraire, j'aurais aimé avoir une année sabbatique pour voyager, rencontrer du monde et tout. Je pense que c'est la meilleure école, vraiment.
Ouais, ouais.
Mais finalement, on peut le faire à n'importe quelle étape de la vie.
À n'importe quelle étape. Et puis, il y a des étapes où c'est un peu moins dangereux que les autres. On va dire ça comme ça. Pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de le faire quand j'ai eu mon bac ou même après parce que j'ai enchaîné direct. En fait, c'était le lycée, donc le bac, l'université. Et puis, j'ai commencé ma carrière journalistique pendant l'université, et ça ne s'est pas arrêté depuis. Et à un moment donné, j'avais fait un burn-out, une grosse dépression en 2015, à l'âge de 25 ans, une grosse, grosse dépression, où j'en suis sortie plus forte, honnêtement.
Cette dépression, elle était due à quoi ?
Burn-out, justement. Je n'avais pas pris le temps de respirer.
Surmenage, beaucoup
c'était,
de travail.
C'était trop pour un petit corps, c'était trop pour une petite
beaucoup
personne.
Beaucoup de pression, peut-être
beaucoup
aussi.
Beaucoup de pression, beaucoup de... J'étais très, très dure avec moi-même.
Bienvenue au club.
Ah bah ouais, c'est bien pour les gens qui veulent avancer, ça te permet d'avancer à une vitesse incroyable et avec de bonnes choses et un bon bagage, mais tu payes un jour ou l'autre.
C'est ça.
Tu le payes.
Tu payes un jour ou l'autre.
Ouais,
il y a toujours la rançon de la gloire, comme on dit.
Exactement. Ouais.
Et quand tu payes, en général, ça fait mal.
Ça fait très, très mal. Ouais. Ça fait mal, c'est douloureux. Et puis, ça prend du temps. Tu peux pas te relever le lendemain. Donc, moi, ça m'a pris 7-8 mois, un truc comme ça, en 2015. Et puis, c'était le tournant de ma carrière. Mais vraiment, c'est à ce moment-là que je me disais, bon, Farah, là, t'es revenue. Il n'est pas question que tu reviennes pour faire partie des meubles ni pour faire de la figuration. Là, on va mettre les bouchées doubles, on met la sixième et on y va.
C'est vrai qu'on entend souvent parler de burn-out, de dépression. Toi, comment ça s'est manifesté ce mal-être concrètement dans ta vie? Comment tu t'es dit, comment tu as su en fait que ça n'allait pas? Comment ça s'est manifesté pour toi ce burn-out?
En fait, pour expliquer le contexte de la période et de ce qui s'est passé dans ma vie, donc j'étais à l'université, une fois à la fac, vers la quatrième année, donc la dernière année de journalisme, il fallait que je fasse un stage pratique, enfin, il fallait que je m'exerce. Et donc, j'ai commencé la presse écrite et pas des... Enfin, moi, dans ma vie, ce que j'aime bien, c'est que j'ai de belles surprises et de belles occasions, c'est que je ne commence jamais avec de petites choses. Bizarre, je commence toujours avec de grandes choses. J'ai commencé avec la presse écrite francophone, le deuxième quotidien national du pays, un énorme quotidien pour une fille de 19-20 ans, et avec des sommités là-bas, des gens qui avaient 2-3 fois mon âge. Donc moi, j'étais là, je devais apprendre, ils m'ont beaucoup, beaucoup appris, beaucoup aidé, mais juste après, en étant encore à la fac, donc j'ai commencé ma carrière de journaliste, stagiaire, et puis on m'a retenue, on m'a gardée en tant que pigiste. Donc j'écrivais, je faisais de la pige, j'écrivais des petits articles culturels par-ci, par-là. Et en même temps, j'ai fait de la télé, donc 3-4 mois après, j'ai intégré la télé.
Donc vraiment, t'as enchaîné.
Et à la fac, oui. Et donc tu passes, après la télé, j'ai été appelée par la Radio Nationale, et j'ai co-animé la matinale, on va dire, une des matinales les plus suivies du pays, pour pas dire la plus suivie, pour pas avoir des collègues qui disent « Ah non !» Et après, pareil, je suis partie au Liban, j'ai représenté l'Algérie dans le concours du meilleur présentateur arabe, et puis je suis revenue. Et tout ça a été très, très fatigant pour une petite fille de 24 ans.
Et comment ça s'est manifesté, cette fatigue, pour toi? Est-ce que, je ne sais pas, tu n'arrivais plus à te lever le matin? Est-ce que tu étais en dépression? Est-ce que tu avais des idées noires? Tu vois ce que je veux dire?
C'était tout ça à la fois.
Comment ça s'est fait?
Oui, c'était tout ça à la fois, mais en fait, je ne voyais pas la chose venir. C'était aussi un concours de circonstances. Ma grand-mère qui était décédée quelques mois auparavant, je commençais à être fatiguée, je commençais à vouloir faire une pause. Je ne savais plus aussi qui j'étais. Hein. Ce n'est pas facile, on n'a pas de... Quand on n'a pas de, on va dire, de...
De manuel?
De manuel, oui.
C'est
comment
ça
gérer
dans
ça
de mode d'emploi?
Comment gérer ça, le mode d'emploi? Il n'y a pas d'aide psychologique, finalement, quand on est comme ça, projeté du jour au lendemain.
Dans le monde du travail.
Ouais, à la télé, moi, j'avais une émission, j'étais encore à la fac. Donc, je passe de la fille d'un quartier populaire, et je tiens à préciser, Algérie en Algérie, quartier populaire, ça ne veut pas dire quartier pauvre, mais ça veut dire quartier où il y a beaucoup de monde, où il y a beaucoup de vie. Voilà, donc je suis native d'Alger Centre, de Bab El Oued, ce grand quartier super connu même dans l'histoire algérienne. Et donc, j'étais la fille très sociable, qui aime parler aux gens, qui est là, enfin, avec tout le monde, avec ses amis, ses camarades, etc. Et du jour au lendemain, hop, projetée à la télé, une émission très suivie. En quelques mois, elle était devenue l'émission la plus suivie dans le pays. Créneau jeune, émission musicale jeune, la plus suivie du pays. Donc du coup, moi, je ne savais plus qui j'étais, tout simplement. Et puis les succès sont enchaînés, je ne savais plus qui j'étais, je ne savais plus comment je devais faire, comment je devais parler.
Bah justement, j'ai une question par rapport à ça. C'est vrai que le monde de la télé, le monde médiatique d'une manière générale, c'est un monde qui est assez spécial. On est dans
requins.
Une bulle. Un monde de requins, tu dis?
Shark. Un monde de requins, j'irais même plus loin, tu vois. Je dirais même, et je pèse mes mots, c'est-à-dire je dirais que c'est un monde sale.
Sale?
Il n'y a pas une personne qui travaille dans l'audiovisuel, je perds mes mots là, l'audiovisuel qui dirait pas ça.
Dans quel sens?
Peut-être pas à voix haute, c'est un monde sale, c'est dur.
Mais c'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends
par
là?
C'est un monde où il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de lumière. Là où il y a les lumières, il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de coups bas. Les enjeux sont très, très, très importants. Il y a toujours des problèmes dans tous les domaines, et j'en suis certaine. Mais tu n'as pas les mêmes problèmes quand tu es, je sais pas, quand tu travailles dans un musée, dans un laboratoire, que lorsque tu travailles dans un domaine où c'est que des égos. Que des égos, c'est-à-dire c'est l'image. Si je te casse, c'est moi qui monte. Si je te casse pas, il y a de l'argent, il y a du sponsoring, il y a fame, il y a être reconnu. Et donc, ça a toujours été un domaine sale. Quand je dis sale, c'est-à-dire que les esprits, les cœurs sont sales.
Est-ce que toi-même, tu as subi quelque chose? Tu as une expérience négative qui te fait dire ça, que tu pourrais partager avec nous?
On n'a pas forcément...
Pour qu'on comprenne un petit
peu mieux. Oui, bien sûr, on n'a pas forcément besoin de tomber dans le piège pour savoir que c'est un domaine très, 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 très difficile. C'est-à-dire que oui, comme tout le monde, j'ai eu des coups bas, beaucoup de coups bas, beaucoup de... En fait, dans notre domaine, on appelle ça creuser des tombes.
Voilà.
En arabe, on appelle ça hafar al-qabr. C'est-à-dire, on creuse des tombes et partout. C'est ce domaine que tu le vives et que tu l'intègres en France, aux États-Unis, au Zimbabwe, à Dubaï, en Algérie, sur la planète Mars, il est pareil. Il est pareil. C'est-à-dire que c'est la nature humaine. C'est comme ça, l'être humain est comme ça. Et c'est un domaine, je t'ai dit, où il y a beaucoup, beaucoup d'ego. Donc oui, les coups bas. Oui, tu pars à la maison, tu ne sais jamais ce qui va se faire, ce qui va se dire et ce qui va se préparer, qui va être concocté pour toi sur un petit feu. Voilà, tu peux revenir le lendemain, il y aura peut-être des choses qui ont été dites, faites contre toi, contre ton groupe, contre ton producteur, le sponsor qui veut en placer une autre. Tout peut se faire.
Donc, tu es toujours sur tes gardes.
Toujours. Tu ne sais jamais, ça je l'ai appris avec le temps, tu ne sais jamais qui est vraiment ton ami dans ce domaine et tu ne sais jamais qui est ton ennemi, surtout. Et tout le monde peut être ton ami quand tu brilles et personne n'est là quand tu tombes. Quand j'étais en dépression, le téléphone ne sonnait plus. Il ne sonnait plus. C'est pas intéressant parce qu'il n'y a rien d'intéressant parce qu'il ne s'intéresse pas à la personne au final. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de bonnes personnes dans ce domaine, absolument pas. Il y en a. Mais je dis que le domaine, le système du domaine est comme ça.
J'ai l'impression que tu as vu un peu le côté sombre de absolument. La nature humaine.
Oui.
C'est ça. Hein.
Toute personne qui rentre dans ce domaine le dira. Même les gens qui sont dans le cinéma. Peut-être que certains décident de ne pas le dire à voix haute parce que pour pas avoir d'autres répercussions, peut-être des problèmes. Mais personne ne dira le contraire.
Toi, tu as commencé très jeune dans ce milieu.
Bah justement.
Quel est le conseil que tu aurais aimé avoir à tes débuts et qui aurait pu t'aider et que c'est un conseil peut-être même que tu pourrais donner à la jeune génération, à des personnes qui aimeraient aussi réussir dans ce domaine-là.
Ouais, c'est beau, elle est belle ta question. En fait, Manal, moi j'ai eu la chance aussi d'avoir un père qui a côtoyé ce domaine. Mon père et mon oncle étaient dans ce domaine bien avant moi. Ils étaient là dans les années les 70-80. Donc, ils ont vu ça bien avant moi. Et ils étaient un peu contre que j'intègre ce domaine. Ils n'y sont plus hein, depuis bien longtemps, mais ils connaissent quand même les rouages. Ils connaissent quand même le côté sombre de ce domaine. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un père qui communique beaucoup avec moi, qui m'a beaucoup, beaucoup appris. Et c'est lui qui me disait plein de choses. Donc, il me disait, attention, surtout sur tout ce qui est mœurs, sur ce genre de sujet, dans une société conservatrice comme la société algérienne. Donc mon père a eu beaucoup, beaucoup de... Il m'a beaucoup aidé. Il m'a beaucoup expliqué.
Quel est le conseil que tu retiens le plus de tous les conseils qu'il a pu te donner Le plus important selon toi
Alors je dirais deux. Je dirais deux parce que un relève du côté humain et ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire quand on prend un peu la lumière, quand on devient un peu connu, il est très facile de se prendre pour je ne sais qui. Il est très facile d'oublier qu'on est juste un être humain normal, que demain la caméra s'éteint, t'es plus personne techniquement. Mais il m'avait dit, n'oublie jamais l'équipe technique. Et ça, je n'ai jamais oublié ce détail. Il m'a dit, l'animateur n'est rien, le journaliste n'est rien, l'acteur n'est rien sans l'équipe technique. C'est eux, techniquement, qui te font monter ou qui te font descendre. C'est-à-dire qu'ils tirent vers le haut ou le contraire. Il m'a toujours dit que le technicien, s'il est dans ton camp, s'il est de ton côté, ton image sera bonne, c'est-à-dire à l'image, le son sera bon. Il peut te saboter, un technicien peut te saboter, totalement. Parce que si tu le prends de haut, eh ben, il te montrera que sans lui, t'es rien.
C'est un très bon conseil.
Donc oui, très très bon conseil, parce que très rapidement, j'avais vu des petites chroniqueuses, alors que moi, au début, j'avais commencé vraiment en tant qu'animatrice principale. Mais je voyais des petites chroniqueuses, une nana, comme diraient certains dans le domaine. Une personne qui fait la météo pendant 4 minutes. Ça y est, on dit en arabe, ça y est, c'est la reine du paf. Donc du coup, des gestes comme ça, elle parle mal aux techniciens. Moi, je suis l'animatrice, vous êtes personne. Donc c'est elle, la déesse de tout et de tout le monde. Et moi, j'ai jamais aimé ça. Donc j'ai toujours été très très proche des équipes techniques jusqu'à présent.
Même... Garder l'humilité,
ah
être
oui,
humble,
oui.
Modeste,
je mange avec eux, je m'assois avec eux, je papote avec eux. Et puis même ma façon de parler avec eux, on dirait que je suis leur pote. C'est-à-dire je ne prends pas les airs de journaliste, je ne suis pas la femme, la femelle, pas du tout.
Tu ne les prends pas de haut.
Non, je suis vraiment leur pote et ils m'ont beaucoup appris.
Mais je trouve ça super important. Moi, tu sais, je trouve que c'est un indicateur chez les personnes que je connais pas, que je découvre, hein, que je rencontre pour la première fois. J'observe toujours comment ils réagissent, comment ils sont avec les personnes autour d'eux.
Mmh, absolument.
Comment ils vont parler au serveur ou à la serveuse, à la au vendeur ou à la vendeuse, au valet, à toutes les personnes en fait qui font le service autour. Est-ce qu'ils vont leur parler d'une manière respectueuse ou pas ? Est-ce qu'ils vont les regarder dans les yeux ?
Absolument.
Et pour moi, ça, c'est des indicateurs super importants sur les valeurs que la personne, en fait,
ça dit
a
tout
ou n'a
sur
pas.
La personne.
Exactement.
Ça dit tout sur la personne.
Sur l'éthique.
Parce qu'il est bien, c'est très facile de se comporter bien avec le PDG. Il
Exactement.
Est très facile de se
Exactement.
Comporter bien avec Ananiev, une star. Mais les moments où tu ne penses pas que les regards sont sur toi, on peut voir qui t'es vraiment.
Toi, Farah, les gens te regardent, te reconnaissent même dans la rue. Tu as une très grande communauté sur les réseaux sociaux. Certains peuvent t'admirer beaucoup. Qu'est-ce que ça a changé pour toi ? Qu'est-ce que ça a changé le fait de passer de l'ombre à la lumière ?
C'est beaucoup de personnalité. Beaucoup de personnalité, je ne sais pas, c'est un lapsus ? Non, c'est beaucoup de responsabilité. C'est beaucoup de responsabilité. Mais il faut aussi avoir une forte personnalité, tiens.
C'est ça.
J'ai évoqué le mot personnalité.
Ouais. J'ai l'impression que tu as une forte personnalité.
Apparemment, il paraît. Ouais,
il paraît.
Il faut bien. Je pense qu'il faut bien. Tu sais, même quand j'écoute de la musique ou je regarde des gens parler, je n'aime pas les femmes molles. Je n'ai jamais aimé les femmes molles. Donc, j'aime pas la femme faible. Je la trouve pas intéressante. Tu vois, une femme faible qui est là, je la trouve pas intéressante. Secoue-toi. Bouge, donne ton avis. Après, ça dépend les cultures, mais moi, je viens d'une culture où pour être une femme, bien généralement, hein, vraiment, je te parle de mon éducation profonde que m'a donnée ma mère et elle aussi, elle a reçu de sa grand-mère, de sa maman aussi. Oui, la femme, elle doit être toujours douce, avec une petite voix qui doit tout dire. Je sais pas comment t'expliquer, mais je n'ai jamais eu cette image de la vraie femme. Et c'est grâce aussi à mon père. Ma mère aussi est une femme battante. Ma grand-mère aussi, à l'époque, était une femme qui a fait beaucoup de choses par rapport à l'époque dans laquelle elle vivait, dans les années quand même 30, 40, 50. Et voilà. Donc oui.
Mais pour revenir à la question, est-ce que toi, tu as le sentiment d'avoir changé ? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es la même Farah que celle que tu étais avant ?
Oui et non.
Il y a 10 ans, par
oui,
exemple.
Oui, oui et non. Je te mentirais si je te disais que j'étais tout à fait la même. Parce qu'au final, la seule chose qui est sûre dans la vie, c'est le changement. C'est le changement continuel et tout ça. J'ai
Qu'est-ce
beaucoup
qui a changé selon toi ?
J'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup mûri. Et puis les coups bas, les coups durs aussi. On perd des gens, on apprend des choses. Non, j'ai beaucoup changé, mais j'espère dans le bon sens.
Moi, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, quand je t'entends parler, j'ai l'impression que bah, forcément, au départ, tu étais peut-être un peu candide, pas naïve. J'aime pas ce mot parce que c'est un peu péjoratif.
Tu sais que je m'appelle Nia, qui veut dire naïve, mon nom
je
de famille.
Nia
nom de famille, ouais.
Ah, ton nom de famille, c'est Nia.
N-I-A, Nia, qui veut dire naïf, pour l'homme, naïf.
Candeur, un peu.
Oui, qui veut dire quelqu'un qui a une bonne intention.
C'est
une
ça.
Intention,
bon, ça te va
bonne.
Bien, du coup.
Ah ben, c'est gentil.
J'ai l'impression qu'on est quand même un peu candide et naïf quand on rentre comme ça dans le monde du travail, encore plus quand c'est un milieu médiatique comme toi. Et qu'au fil du temps, peut-être que tu t'es créé une sorte de carapace et tu as aussi filtré les gens. Mmh. Aujourd'hui, est-ce que tu es plus à même à lire les gens, lire leurs intentions envers toi,
aujourd'hui,
leurs valeurs ?
Aujourd'hui, j'arrive un peu à lire dans les yeux des gens, à sentir la vibe, tu sais, l'aura qu'il y a et tout ça. Mais je ne vais pas dire que j'ai complètement changé. Ça me porte préjudice parfois, Manal. C'est-à-dire
dans
que parfois, il faut être un requin quand même dans ce domaine. Mais moi, je n'y arrive pas à 100%. Même dans ma façon de faire, j'arrive pas vraiment à jouer le rôle de la célébrité. Et ma thérapeute me dit souvent non, il faut accepter ce rôle, Farah. Je l'accepte avec ses obligations, avec sa responsabilité, mais je l'accepte pas dans le sens où je dois changer de la petite fille que je suis en vrai. Donc il m'arrive très souvent de prendre des gifles, des claques, parce que ben, je continue à croire que l'être humain est beau. Tu vois, en Algérie, on dit hey, « tout le monde, il est beau, tout le monde, il est gentil ». C'est-à-dire, c'est un peu trop. C'est un peu trop. Même ma spontanéité, parfois, c'est parfois c'est mal vu, tu sais, dans un domaine où tout le monde est là, oui. Parfois, tu as une collègue, tu sais que tu as 5 fois plus de notoriété qu'elle, ton CV est plus rempli qu'elle, tu entreprends des choses plus intéressantes, mais quand je lui parle, moi je suis là, oh, bonjour, elle, oui, bonjour, oui. J'arrive pas à jouer ce rôle.
C'est vrai que toi, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as de l'expérience dans différents pays. L'Algérie, Dubaï, la France. Mm-hmm. Est-ce que tu as constaté des différences entre ces pays-là ou est-ce que c'est les mêmes règles et les mêmes codes
Je pense que c'est un peu les mêmes règles et les mêmes codes humains. Si on parle de l'être humain, c'est un peu des codes universels, je pense. Mais après, c'est vrai que, ça, que chaque société a sa particularité. La société algérienne est belle, mais elle est conservatrice. En France, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un certain savoir-vivre, une certaine facilité, simplicité de la vie. À Dubaï, c'est un autre monde.
J'ai l'impression que tu t'es épanouie quand même professionnellement à Dubaï.
Absolument.
Qu'est-ce que ça t'a apporté d'être là-bas ?
Je dirais pas professionnellement, pour pas cracher sur mon pays, parce que j'ai tout fait en Algérie. Mais vraiment, et c'est pas, je fais pas genre. Et je fais
tu
pas,
t'es construite là-bas.
Je me suis construite en Algérie, j'ai tout appris en Algérie. J'ai fait de la radio, de la presse écrite, du web, de la production, j'ai tout fait en Algérie.
Alors qu'est-ce qui t'a amené à Dubaï ?
Je suis le produit des médias algériens et j'en suis fière. Je suis le produit de la vraie société algérienne. Parce que même parfois ici, quand j'ai des amis français qui me disent « Ah, c'est bizarre, vous êtes un peu différents, les Algériens d'Algérie, les Algériens d'ici ». C'est un grand débat, tout ça, mais moi, je suis toujours fière de dire que je suis le produit de l'Algérie. Voilà.
Made in Algeria.
Made in Algeria à 1000%. C'est un peu exagéré, on aime bien exagérer les Algériens. Au lieu de dire 100%, on dit 1000%, mais c'est pour dire à quel point je suis la fille des médias algériens. Et tout ce que j'ai appris là-bas, je l'ai pris avec moi à Dubaï. Et ça me sert. Et je peux être la leader que je suis dans mon domaine. Je suis la responsable de production de mes émissions. Je coproduis mes émissions. Et là, on se lance sur, Inch'Allah, un nouveau projet qui sera, j'espère, avec la volonté de Dieu et mes efforts, bien sûr, un gros projet. Mais il part aussi de cette petite fille qui a tout appris en Algérie. Mais à Dubaï, je me suis épanouie humainement. Je ne vais pas te mentir, c'est plus ça.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce côté-là ?
Dubaï, beaucoup de gens ont une mauvaise image de Dubaï. C'est un peu à cause des influenceurs... de tous les pays, de toutes les nationalités, qui donnent un peu une image superficielle de Dubaï, le Dubaï bling-bling, le Dubaï des gens superficiels. C'est pas que ça, Dubaï. C'est un peu ça, de temps en temps. Chaque pays a des choses négatives et des aspects négatifs. Mais Dubaï, c'est aussi un endroit super positif pour les gens qui veulent être positifs, qui veulent avancer et qui veulent travailler. Moi, je dis que c'est mon deuxième pays. Je me suis vite sentie chez moi. Et quand tu veux travailler, quand tu veux avancer, ils disent « Bienvenue, yallah, bienvenue, come, work, travaille, avance. » Et ça, quand on est ambitieux, ça fait du bien. C'est-à-dire qu'il y a toujours les coups bas, ça c'est normal. Même à Dubaï, j'ai des coups bas entre... Voilà, c'est le domaine, du domaine. Hein, je veux dire, tu ne sais jamais ton émission si elle va continuer la saison parce que tu ne sais jamais à quel moment quel producteur pour avoir son émission va faire... un mail caché, va faire un coup bas avec je ne sais qui. Mais le pays en général est super positif. C'est vrai que c'est une bulle, mais une belle bulle pour moi.
Quelles sont les différences que toi tu as constatées dans la gestion des relations humaines entre l'Algérie et Dubaï ? Quand tu arrives à Dubaï, c'est quand même différent.
Oui.
C'est un rapport qui est différent avec les gens.
Le rapport n'est pas le même. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, ça reste un peu universel. L'être humain est le même partout. Mais on dit aussi qu'on est l'œuvre et l'enfant de notre société. Chacun de nous ressemble à sa société au final. C'est clair qu'il y a plus d'humanité en Algérie. Les rapports sont beaucoup plus faciles, ils sont beaucoup plus simples, ils sont beaucoup plus... aller dans le partage, je t'aide pour ce que t'es. Et je t'aide juste pour t'aider, je suis là pour toi, humainement. Il n'y a pas encore la valeur et la notion de qui est qui fait quoi, qui a combien de temps, de millions, qui a une Lamborghini, qui fait quoi. Il y a des gens qui ont ça, mais c'est une petite minorité. Mais la société algérienne, en majorité, elle est très... C'est humble, c'est gentil, ça aide.
Tu as l'impression qu'à Dubaï, on va plus te juger sur ton statut social ?
C'est le statut social en premier, bien sûr. Encore une fois, ça ne veut pas dire que le pays est négatif, loin
non,
de là.
Non, évidemment.
Mais c'est une autre façon de voir la vie, oui, oui. Là-bas, tout le monde est là pour... tout le monde est là pour quelque chose. Les gens quittent leur famille, quittent leur pays pour venir chercher un meilleur avenir.
C'est ça. Tout le monde a un objectif en tête, en fait. Ils sont là pour travailler, quoi.
Ouais. Tu sais, quand je suis arrivée à Dubaï pour y rester en 2018, une copine à moi, qui est très spirituelle, qui est un peu trop dans les « oui, mais qu'est-ce qu'il y a derrière ?» et tout, je me rappelle qu'elle m'avait dit « tu viens faire quoi à Dubaï ?» Je lui dis « comment ça ?» Elle m'avait dit tu fuis quoi ?» J'étais là, mais je fuis quoi? Elle m'a dit, tout le monde fuit quelque chose ici.
Elle n'a pas tort. Hein.
Ouais, je lui disais, non, mais moi j'étais là, très nationaliste. Non, je ne fuis pas mon pays. Moi, je suis venue vraiment pour une mission de carrière. Ça ne veut pas dire que je ne l'ai pas eu chez moi, mais je voulais un autre public encore plus. Je voulais être aussi une ambassadrice de là où je viens. Et ça m'avait touchée et ça m'avait aussi percutée. Je me rappelle que ça m'avait... Non, j'étais un peu là, je ne savais pas quoi répondre. Elle m'avait dit, tout le monde fuit quelque chose. Soit sa situation, soit un passé douloureux, soit...
Soit c'est l'amorosité de la France.
Ah, je ne dirais pas ça. Écoute, moi, je suis invitée ici. Je n'ai pas été élevée, je t'avais dit ça tout à l'heure, à manquer de respect aux gens qui m'accueillent. Donc, c'est un pays qui m'accueille, c'est le pays de mon mari.
C'est tout à ton honneur. C'est tout à ton honneur. Mais bon, c'est vrai, ne nous voilons pas la face. Hein. Ces dernières années n'ont pas été les meilleures ici en France. Et beaucoup c'est de vrai. Personnes ont décidé de changer de pays pour pas seulement aller à Dubaï, mais dans d'autres pays partout dans le monde, pour effectivement fuir quelque chose, espérer une vie meilleure.
Oui.
Donc je pense qu'elle n'a pas tort à ce niveau-là. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton année sabbatique que je trouve super intéressante ? Donc du coup, tu as pris du temps pour toi, pour faire autre chose, une introspection. Quelle est la plus grande leçon que tu as tirée de tout ça ? Est-ce que tu as appris quelque chose sur toi-même ?
Oui, beaucoup. J'ai pas qu'une seule leçon, Manal. J'en ai appris des choses cette année. Un an et demi. Elle prend fin, là, c'est bon. On arrive à la fin. Et ça m'a fait beaucoup de bien parce que je t'ai dit, je me suis reconnectée à la femme que je suis. Et j'ai encore une fois compris, ça je le savais, mais on va dire que j'ai processé, j'ai compris et c'est bon, c'est fini à vie maintenant, je le comprends. Et la famille, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Je suis très, très famille. Et là, je me disais, mais non. Heureusement que j'ai toujours pensé à ça et heureusement que j'ai toujours été proche de ma famille. Mais en même temps, on revoit un peu ses pas. Je ne vais pas dire que j'ai fait un pas en arrière. J'en ai fait peut-être deux, trois cette année. Oui, parce que je ne suis pas sous le feu des projecteurs. Mais le plan a changé. Le plan s'est amélioré, on va dire ça comme ça.
Est-ce que je dois comprendre qu'en fait, ta carrière, ton travail, ce n'est plus la priorité aujourd'hui, c'est la famille ?
Ça a toujours été la famille. Mais je ne le voyais pas. C'est tout. Je ne le voyais pas parce que j'étais concentrée, parce que même pendant les fêtes religieuses ou nationales, moi j'allais travailler alors que toute ma famille était ensemble et je me sentais mal et j'en pleurais parfois et je culpabilisais beaucoup, vraiment beaucoup. Et c'est quand je suis partie que je me suis rendu compte que non, from now, c'est-à-dire que je parle dans toutes les langues.
Et t'inquiète pas, je fais beaucoup de franglais aussi. Hein. Parfois, j'ai certains commentaires là-dessus, mais bon, je le prends très bien.
Une des choses qu'on apprend à accepter à Dubaï, par exemple, c'est qu'on peut parler toutes les langues. Bah oui. Personne ne dit « Ah oui, tu fais genre... »
Au contraire, c'est super enrichissant, je trouve.
Non. Donc non, j'ai appris plein de choses. Et puis, j'ai revu un peu mes plans, mes stratégies. Donc là, je reviens. À chaque fois que je fais une pause, même quand j'avais fait la dépression en 2015, je reviens avec un autre plan. Un nouveau plan, une nouvelle stratégie.
Est-ce qu'on peut avoir un peu un aperçu de ton nouveau plan ?
Oui.
C'est quoi ton objectif sur lequel tu es en train de travailler en ce moment qui est super important pour toi ?
En fait, je trouve que je me rends compte que je suis une personne qui prend du plaisir à aider les autres. Mais c'est vraiment honnête ce que je dis. Hein. Je suis comme ça. Je ne parle pas de la journaliste. Je me suis rendu compte même à travers ma thérapie que c'était toujours les gens qui passaient quelque part avant moi. Dans ma vie, ma famille avant moi. Si j'ai des amis qui viennent et j'ai un autre rendez-vous, je décale automatiquement mon rendez-vous. Je disais pas non. c'est pas bien, ok, mais j'avais du plaisir. J'ai toujours du plaisir à offrir. Après, on dit que quand on est balance, enfin, je m'y connais pas trop, mais on dit
que... Ah, en signe astro, tu veux dire ?
Je m'y connais pas trop, mais à Dubaï, tout le monde parle de ça, justement.
C'est vrai ?
Et au Moyen-Orient, ils sont très, très, très portés sur ça. Ah, alors que moi, j'arrivais avec une culture maghrébine, francophone. Je dis, mais ils parlent de quoi ? C'est des sorciers, qu'est-ce qu'ils ont ? Et donc, tout le monde me disait... Ah oui, ah, donc voilà. Donc, il faut savoir qu'à Dubaï, ils ont « Where are you from ?» Donc, tu viens d'où ?
Ouais.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Mm-hmm. Et c'est quoi ton signe astrologique ?
C'est vrai ?
Je te promets que la première fois, je me dis, mais c'est des psychopathes, et qu'est-ce qu'ils ont là avec mon signe astrologique ?
Mais du coup, si c'est un signe qui ne matche pas, comment ça se passe ?
Il y a des gens qui sont vraiment à next level, quoi, qui peut-être que ils te calculeront pas trop par rapport à ça. Mais en général, ils savent un peu comment est ta personnalité pour éventuellement savoir se comporter avec toi.
C'est paradoxal, je trouve, pour des musulmans, enfin des pays qui pratiquent quand même beaucoup la religion.
Oui. Après, t'as ceux qui pensent que c'est... qui peuvent connaître l'avenir à travers ça. Ils voient l'horoscope de la semaine. Et t'as d'autres qui disent, non, bien sûr que ça... voilà, quoi. Mais je crois juste que les traits de la personnalité, de je sais pas, du signe balance et tout ça, sont ceci, cela.
Okay.
Et donc, moi, on m'a toujours dit balance. Après, honnêtement, j'ai cherché. Je me disais, mais attends, mais c'est vrai. C'est bizarre. Je m'y connais pas. Mais tout ce que je lis sur le signe balance me ressemble. En tout cas, ils disent... que la balance est une personne qui aime donner.
Et c'est une personne altruiste qui aime donner aux autres.
Qui aime beaucoup donner. Donc moi, je trouve mon plaisir et mon bonheur quand je donne, ne serait-ce qu'un petit quelque chose. Quand je te fais plaisir, quand je te rends un service, je sais pas. Je suis un peu vieux jeu, peut-être. Je viens peut-être d'une autre planète, carrément. Mais là, je suis vraiment en phase avec moi-même et j'ai vraiment envie d'être moi-même et de donner pour être un peu heureuse aussi.
Et alors, je le suis. De quelle façon tu souhaites donner
désormais ?
C'est-à-dire
que maintenant, tout ce que j'ai appris,
ouais,
tout ce que j'ai appris durant les 12 dernières années, je vais essayer de le transmettre.
Le transmettre. De quelle façon ?
De façon, ça va être des conférences, ça va être des cours, ça va être des choses comme ça. J'aime bien transmettre le savoir. Et je me dis, un jour, j'aimerais bien continuer mes études et faire un doctorat en journalisme. Mais pour l'instant, on va dire que je vais aider les autres avec ce que j'ai pu apprendre pendant les 12 ans, durant les 12 dernières années, à savoir qu'on n'apprend pas tout à la fac dans ce domaine.
Ah non, on apprend vraiment le strict minimum, je dirais même. Hein.
Dans la vie en général, dans notre domaine, le métier,
c'est l'objectif du podcast, apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école.
Exactement, c'est pour ça que j'aime beaucoup ton podcast. Et à l'école, de journalisme en tout cas, on n'apprend pas tout. On n'apprend pas ce que t'apprends le terrain. Ce que t'apprends les plateaux de tournage, ce que t'apprennes les réunions, ce que t'apprennes les années.
Voilà. C'est super intéressant ce que tu me dis. Ça veut dire que là, tu vas essayer de transmettre tout ça. Mmh. Alors déjà, je trouve que effectivement, c'est un monde, comme tu disais, c'est une bulle. Mmh. Donc c'est un monde un peu qui fascine et en même temps, on ne connaît pas trop de choses de ce monde-là. Et je sais que les gens ont beaucoup de questions, mais n'osent pas forcément les poser. Mmh. Donc je pense que ça peut vraiment beaucoup aider. Mais au-delà de ça, tu as des choses à transmettre, même pour des personnes qui ne veulent pas percer dans ce milieu-là.
Non, en fait, je ne vais pas aider les gens.
Les relations humaines,
ça va être dans la communication, bien sûr.
Est-ce que tu as pensé à écrire un livre ?
Oui, ça fait des années que j'y pense. Et puis honnêtement, là en ce moment, je traverse des périodes un peu où j'apprends encore de nouvelles choses. Et donc je me disais, bon, pause, laisse encore, apprends encore des choses. Parce que j'ai eu souvent des réflexions du genre, alors ma communauté est à fond avec moi, oui on le veut, ça fait 3-4 ans que j'en parle. Je voudrais raconter à toute personne, et surtout aux jeunes, qui peut-être éventuellement voient en moi un modèle. Parce qu'il faut savoir que, ok, moi j'ai la chance d'avoir une voix qui porte, qu'on entend, qu'on écoute, et on me voit, donc j'ai une place dans la société, tout le monde a une place, mais je veux dire que je peux faire des choses. Et je peux aussi être la voix de milliers et de millions de personnes, et même des femmes et des filles, qui n'ont pas la force et la chance d'avoir cette voix. Et je sais qu'elles se retrouvent en moi. Et depuis des années, depuis plus de 10 ans, je reçois des messages de femmes qui me disent « J'aurais tellement rêvé pouvoir faire ceci, pouvoir faire cela. Comment on a fait ? Oui, mais c'est pas possible, moi je suis la fille de personne, c'est pas possible, je suis l'enfant de personne, c'est pas possible, je viens d'un milieu défavorisé, etc. » Et donc pendant des années, j'ai toujours eu ce discours avec mes abonnés où je disais « Si à ma petite échelle, moi j'ai pu, alors que je suis exactement comme vous, j'ai fait l'école publique comme vous, j'ai pris le bus scolaire gratuit comme vous, je viens d'un quartier populaire comme vous, autour de moi les idées reçues étaient chaotiques, Autour de moi, je ne voyais honnêtement que des femmes qui ne réussissaient pas. Je ne parle pas d'études. Avoir un bac plus 5 ne veut pas dire que tu es une femme qui réussit la vie.
Bien sûr.
Donc, je voyais plein de femmes qui étaient tout sauf une femme ambitieuse qui veut avancer autour de moi, dans mon petit cocon. Et donc, je peux comprendre les gens qui sont frustrés. Je peux comprendre les femmes qui n'ont pas de voix. Et c'est pour ça que je voulais en parler, tout simplement. Je voulais
écrire
raconter
ce livre.
Oui, c'est pour ça que je voulais le raconter. Certaines personnes disaient, oui, mais attends, t'as pas fait je sais pas quoi en nucléaire, t'as pas 50 ans de carrière. On n'a pas besoin d'avoir 50 ans de carrière pour parler à un jeune qui est perdu, qui est au bout du truc et qu'il a juste besoin d'écouter quelqu'un qui lui ressemble.
Oh là là, les vieux jeux comme ça, on en a tellement marre. C'est...
Ah oui, ah oui, c'est moi fatigant, j'ai eu plein de choses.
Si vous avez quelque
ça.
Chose voilà, de pas très positif à dire, taisez-vous.
Après, c'est voilà, mieux. C'est pas le moment. Maintenant, je me dis, attends un peu, mais il faut le faire.
Mais justement, toi, Farah, quel est le livre qui t'a le plus marqué ?
Ouh, ouais, je sais pas, j'en ai plein.
Celui que tu recommanderais à tout le monde, à toutes les personnes que tu rencontres ?
Alors, je sais pas si je dois répondre honnêtement ou si je dois faire de la
si,
com.
Honnêtement.
Parce que, écoute, on est entre deux spécialistes de la com, je peux faire de la com.
On s'est mis d'accord dès le départ, Farah.
Oui.
Non.
On a tendance tout ça, savoir, tu sais, rendre belles les réponses.
Mais c'est boring et puis oui. Voilà.
Je peux te dire oui, le livre qui m'a... Non, j'en ai lu des livres, mais très sincèrement, plus jeune, je ne lisais pas. Ouais. Je ne lisais pas jeune, je trouvais ça boring, je trouvais ça... Voilà, comme beaucoup de jeunes et beaucoup d'ados malheureusement. Et puis j'ai compris l'importance plus tard quand je me disais non, je veux être une femme, je veux commencer à apprendre plusieurs langues, je veux avancer, je veux faire ceci, cela... Mais aujourd'hui, avec la version d'aujourd'hui, je te dirais que c'est le Coran.
Le Coran,
ouais.
Intéressant.
C'est pour ça que je te dis, est-ce que je te réponds honnêtement ou je fais de la com, je te dis un livre
et
sur la psychologie.
Et pourquoi tu choisis le Coran ?
Parce que, en fait, je ne le lisais pas de la même façon avant. Je le lisais, mais pas avec cette belle profondeur. Et puis la vie, elle t'apprend des choses. La vie, elle t'apprend à aimer encore plus. Enfin, je parle pour moi, hein. Avec tout le respect qu'on a pour les gens qui n'y croient pas, ou ça c'est un autre débat. Mais la vie m'a appris à aimer encore plus le bon Dieu, Allah, à travers tout ce que j'ai pu réaliser dans ma vie. Et dans les moments difficiles, tu sais, quand j'étais en dépression pendant presque une année, j'avais même pas un rond. J'étais plus personne techniquement, je pleurais, je faisais des insomnies, je voyais ma tempe, je faisais des crises paniques.
Ah oui, c'était sérieux.
Oui, quoi. Je voulais plus rien, je pleurais, j'avais des moments où je faisais des crises, je déchirais même mes vêtements. Enfin voilà, c'était très 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 difficile. Je voulais
J'imaginais
plus rien.
J'imaginais pas ça aussi dur.
C'était très 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 dur. Ouais. Mais je me rappelle que mes parents étaient très très peinés, ils savaient plus quoi faire. Ma mère elle pleurait, elle me disait je sais plus comment t'aider. Je sortais plus de la maison, je pouvais plus dépasser la maison, je pouvais plus me doucher, je pouvais plus me brosser les cheveux. Ouais. C'était une grosse dépression. C'était une crise existentielle de malade. Et puis quand je vois qu'après, ma carrière a pris encore un plus grand tournant, et je suis sûre qu'elle prendra encore un autre tournant, encore plus grand, parce qu'il ne m'a jamais lâché. Le bon Dieu, Allah ne m'a jamais lâché. C'est que dans des moments pareils, quand tu te relèves, je dis, mais après, j'en ai fait des milliers et des milliers d'euros après cette année où je n'avais même pas un euro, un dinar, un euro, ce que tu veux. Quand tu vois qu'après, tu remontes dans de grandes scènes, que tu as des prix, que tu fais 50 000 fois plus de ce que tu pouvais imaginer avoir, et tu continues, tu te relèves, alors que tu étais à ça. J'étais à un millimètre du sol, ça y est, j'étais là. Donc tu apprends à aimer la vie, tu deviens plus positive, et je me disais, non, mon créateur m'aime. Je le savais, mais la vie, elle t'apprend. C'est pas comme on te le dit, comme tu le ressens.
Oui, c'est souvent
à travers
les épreuves aussi,
forcément. Et j'ai développé une grande spiritualité. Oui.
Ouais. La spiritualité a une grande importance, en fait, dans ta vie.
Avant, non. Je ne vais pas te mentir. Avant, j'espère que les gens qui vont écouter ça ne vont pas comprendre de travers ce que je vais dire. Avant, j'étais, comme tout le monde, j'étais bien sûr convaincue de ma foi et tout ça, mais je n'avais pas la même spiritualité. C'était plus... Oui, c'est comme ça. On fait comme ça. C'est bien, mais c'est comme ça. Avec le temps, tu apprends à voir les choses autrement et puis à voir les choses de façon plus belle. Maintenant, quand je lis le Coran, c'est de belles choses positives, c'est des belles choses scientifiques, c'est une véracité, c'est des choses techniques. Voilà, donc je suis émerveillée devant ce livre. Il me parle beaucoup plus maintenant qu'avant.
Tu as l'impression que ta spiritualité est arrivée à un niveau supérieur,
absolument,
en fait.
Absolument.
À travers cette épreuve-là.
Absolument.
Comment ça se manifeste pour toi au quotidien, ta spiritualité ?
Écoute, c'est pas qu'avec cette dépression, c'est même après. On a failli perdre mon père. Mon père, c'est l'ami, le meilleur ami de mon âme.
Ouais, je sais que tu as une très belle relation avec lui.
Oui, c'est vraiment le meilleur ami de mon âme. Au point où, par exemple, parfois, quand je m'assois et j'imagine perdre ma mère et mon père, je peux pleurer. Hier, par exemple, c'est ridicule. J'ai juste entendu une chanson sur le papa. J'en ai pleuré pendant, je ne sais pas, 20 minutes. Ça peut être ridicule, mais c'est pour te dire à quel point je suis très, très proche spirituellement de lui.
Moi aussi. I am a daddy girl.
Ah ben voilà. Donc, il a fait un accident très, très grave, il a perdu la mémoire, j'avais à peine 19 ans, puis mon frère a fait un très grave accident, ma mère aussi a fait un très grave accident, enfin chacun a une période différente, j'ai perdu ma grand-mère, et pareil, j'annonce mon mariage, 4 jours après, mon père va aux urgences, d'y passer, 4 jours après ma fête, non, 4 jours avant aussi ma fête, il se fait opérer un problème cardiaque. Enfin, il y a toujours des problèmes qui arrivent. Je t'ai dit tout à l'heure, moi, je prends bien les surprises. C'est de ces surprises-là que je te parlais.
D'accord. Pas forcément que les bonnes surprises, en fait.
Non. Même les mauvaises, et Dieu sait que j'en ai. Donc, les gens, quand ils voient de l'extérieur, Manal, ils disent « Ah oui, mais c'est une fille qui réalise ses rêves, qui a tout ce qu'elle veut. Elle est entre Paris, Dubaï. C'est une célébrité dans son pays. Elle peut faire ce qu'elle... » Oui, mais t'as plein de choses à côté. Mais c'est la balance. C'est pour ça que je te dis maintenant, I'm grateful to Allah. Je le remercie pour tout. Même quand ça va mal, je dis, je sais que ça va aller. Je pleure, ça ne veut pas dire que je suis là. Hier encore, j'étais mal. Je ne vais pas te cacher. Je ne vais pas le cacher, mais après, je sais que ça va aller.
Mais t'as raison, on voit que le côté un peu glamour, les strass et les paillettes.
C'est très dur.
On te voit
parfois
super bien maquillée, bien habillée.
Alors que j'ai des problèmes d'animer. De peau. Hein.
Ça ne se voit pas du tout, je te rassure.
Non, mais j'en parle tout le temps, c'est
des
pour.
Des superbes
pour
photos et vidéos sur Insta. C'est vrai qu'il y a une grande communauté qui te suit aussi sur les réseaux sociaux. C'est important, je pense, de parler de ça. Tu sais, le côté un peu caché de l'iceberg.
Oui.
Parce que c'est la réalité, en fait. C'est la réalité de la vie. Vous ne pouvez pas imaginer ce que les gens traversent vraiment.
Absolument. Et de mon côté, je n'ai jamais caché ça aux gens, Manal. Jamais, 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 jamais. Dès que j'ai commencé à sortir ma dépression, j'ai pris un peu de temps, bien sûr, pour me reconstruire, pour aussi reconstruire ma carrière, pour revenir avec quelque chose de grand et tout ça. Mais j'en ai parlé aux gens.
Ça aussi qui fait que tu as une connexion qui est spéciale avec ton audience.
Oui.
Le fait d'être authentique et sincère,
absolument,
de vraiment
absolument
partager
moi, je leur dis,
les bons et les mauvais côtés.
Je leur dis, mon audience, je suis prête à parier ce que tu veux. Qui me suivent pas parce que je suis belle, je suis normale, je suis ni la plus belle, ni... pas parce que je suis fashion, tu trouveras pas un truc de fashion sur mon feed. Parce que je leur ressemble quelque part, parce que peut-être qu'ils voient en moi quelque chose qu'ils ont en eux, peut-être parce que je casse... Je ne suis pas là à tout le temps casser non plus le mythe des célébrités, mais quand j'ai quelque chose sur le cœur, je le dis, tout simplement. Et donc j'ai des problèmes de peau, ça fait 3-4 ans que j'en parle ouvertement, que j'ai des gros problèmes de peau, que j'ai fait une grosse dépression, qu'il m'a fallu une année aussi là pour faire une pause... que j'étais dure avec moi-même et que j'ai récemment commencé une thérapie, j'en parle ouvertement. Et ça fait du bien aux gens. Parce qu'aujourd'hui, c'est très facile de maquiller la réalité. La preuve, on met tous des filtres quand on met des photos.
Moi, ça, c'est un truc que oui, je découvre de plus en plus, jour après jour.
Ça a toujours été comme ça. Maintenant, on dit oui, c'est... oui, mais non, même dans le cinéma, même dans tout ce que tu veux, on a toujours vu les stars...
Mais les gens ne postent plus de photos d'eux sans filtre, en fait.
Malheureusement,
hein. C'est dingue.
Ouais.
Mais du coup, j'ai une question par rapport à ça, Farah. Je suis vraiment curieuse d'avoir ton avis là-dessus. C'est une question que je me pose souvent.
Mmh.
Est-ce que c'est une bonne chose de tout partager avec les gens?
Absolument pas. Ou non? Non. Non, non, non.
Tu vois? Comment toi, tu fais le filtre? Comment tu choisis ce que tu partages et ce que tu gardes privé?
Alors, je partage des moments humains, des moments de qui je suis en tant qu'être humain, mes faiblesses. Je partage, comme je t'avais dit, ma dépression, j'ai partagé ça, mes moments difficiles.
Mais tu vois, c'est quand même des côtés intimes de toi.
C'est intime, mais si ça peut aider les gens qui me suivent à leur donner de l'espoir quand eux, ils sont mal, tant mieux. Quand fin 2020, j'ai eu un problème de vertige, je ne sais pour quelle raison, j'ai eu un gros problème de vertige qui m'a cloué au lit pendant les 4 mois. Je ne pouvais même plus bouger. Donc toute ma carrière a dû faire... j'ai dû faire pause.
C'est en pause.
Je ne pouvais plus me lever, c'est-à-dire que je ne pouvais même plus aller prendre une douche. même plus. C'était ma femme de ménage qui venait pour me faire à manger ou quoi. Et j'en ai parlé. Beaucoup d'influenceuses et beaucoup d'amis artistes. Mais Farah, mais c'est quand même, faut pas dire. Tu vas, les chaînes de télé, les sponsors voudront pas travailler avec toi. Ils vont dire qu'elle a un problème, elle a un handicap. Non. Tu sais, le nombre de milliers de personnes, les milliers de personnes qui m'ont écrit pour me dire, ben moi j'ai ça, mon père a eu ça, moi j'ai des problèmes de santé, j'arrive pas à en parler. Parce que pourquoi ? Parce qu'on a été programmé dans nos sociétés, hein, je parle de la société, dans les sociétés dans lesquelles j'évolue, dans lesquelles je travaille, à savoir la société arabe en général,
ouais.
Berbère, arabe, ce qu'on veut, c'est-à-dire ça va du Maroc jusqu'au, allez, on va dire jusqu'à Dubaï, jusqu'à Oman. C'est toute cette région. Middle East, North Africa, donc Moyen-Orient, MENA. Nord-Afrique, MENA, qui a à peu près la même programmation. Et donc, moi, les femmes qui m'écoutent dire, regardez, je suis une célébrité, vous m'aimez, tout ça, je fais des interviews à toutes les célébrités, mais je suis aussi malade en ce moment, et je le dis, et ça n'enlève rien à ma féminité, parce qu'il faut savoir qu'il y a cette notion d'une femme, elle doit être superwoman, ou sinon, les hommes, ils vont dire, oh là là, c'est une carcasse.
Moi, je te pose la question sur ces réseaux sociaux-là parce que, à titre personnel, je n'ai pas de réseaux sociaux.
Oui,
et c'est un choix que j'ai fait.
J'ai remarqué. Ouais.
J'ai des réseaux sociaux pour le podcast, le Manal Show, mais moi, à titre personnel, je n'en ai pas. Donc, je ne partage absolument rien de ma vie privée parce que je suis quelqu'un de très private. Mais c'est un choix et c'est quelque chose qu'on m'a souvent reproché ou sur lequel on m'a beaucoup questionnée aussi. Et je suis toujours très curieuse de voir comment les gens, eux, gèrent ça. Comment ils font le filtre ? Comment ils choisissent ce qu'ils partagent ou pas ?
Oui.
Parce que tu vois, je suis très loin de tout ça. Est-ce que c'est quelque chose à laquelle tu penses quotidiennement ? Comment toi, tu vois tout, ta personnalité vraiment publique sur les réseaux ?
Dans mon cas, pour ne pas te mentir, c'était pas les réseaux sociaux dès le début, parce que j'ai commencé à la télé. Peut-être que je n'aurais pas le même discours, peut-être que je ne te parlerai pas de la même chose... Enfin, de la chose telle qu'une influenceuse, vraie influenceuse, c'est-à-dire blogueuse. Enfin,
qui a commencé,
un peu
sur les réseaux, quoi.
Blogueuse, pourrait dire, oui. Parce qu'elle, elle a commencé sur les réseaux. Moi, j'ai commencé dans la presse écrite, à la télé, à la radio. C'est quand les gens m'ont aimé à la télé qu'ils m'ont cherché. C'était le début des réseaux sociaux. J'utilisais Facebook aussi pour mon émission télé. Donc, c'est avec le temps que c'est venu. Maintenant, je partage des choses humaines, mais je ne partage pas ma vie privée sur les réseaux et je suis contre. C'est-à-dire qu'ils ne verront jamais mon mari, sauf si vraiment les gens s'amusent à prendre une photo de moi dans la rue.
Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas contrôler, malheureusement.
Oui, c'est pas méchant. Je suis fière de mon mari, il n'y a pas de problème.
Mais quand on cache quelque chose, ce n'est pas parce qu'on n'en est pas fière. Moi, je suis très fière de la vie que j'ai aujourd'hui.
Les gens ne comprennent pas ça, parfois.
Les
gens ne comprennent pas ça,
parfois. C'est de la curiosité.
Parfois, c'est de la curiosité. Tu sais, moi, je suis quelqu'un de positif. Donc, je préfère dire que c'est de la curiosité. Par amour. Je préfère dire ça que d'aller dans un autre sens. Mais moi, par exemple, ma vie privée, tu ne verras pas les détails de ma maison, les détails surtout de la maison de mes parents, tu ne verras pas ma mère, tu ne verras pas nos problèmes. Je te raconte, par exemple, ma relation avec mon père, ma relation avec ma mère, parce que j'estime que ce que je te raconte peut t'aider et peut être bien pour toi. Donc, je filtre, bien sûr, je ne raconte pas tout, je ne te montre pas tout, et tu n'as pas, en tant que journaliste, tu n'as pas à exiger de moi quoi que ce soit. Tu n'as pas à exiger que je te montre ma vie privée, tu n'as pas à exiger quoi que ce soit. Maintenant, moi, je suis contre qu'on montre sa vraie vie privée, parce qu'après, c'est vrai que ça ramène des likes, ça attire des likes, des vues, ça devient même limite un business, et j'en connais un rayon. C'est-à-dire que...
Beaucoup tombent dans ce piège-là, malheureusement.
J'ai fait beaucoup d'interviews à plein de gens, oui, mais après, tu ne peux plus contrôler.
C'est ça.
C'est-à-dire, dès que tu ouvres la porte, si tu ouvres la porte, c'est fini pour toi, Manon.
Tu ne peux plus la refermer.
Et tu n'as pas le droit de dire aux gens « oui, ouais. mais, oui, mais ». J'avais une émission qui parlait justement du bullying, de la mauvaise utilisation des réseaux sociaux. Je l'ai faite pendant 2 saisons, où j'avais des influenceurs. Oui.
Okay.
Justement, c'était après la dépression que j'avais lancé cette émission qui avait fait un boom en Algérie. Donc la première saison était sur YouTube, mais en Algérie. La deuxième saison était sur une chaîne de télé arabe à Dubaï. Donc j'avais vendu le concept à Dubaï. Il était sur le Nilsat, sur le satellite. Et on parlait beaucoup de ça justement avec les influenceurs. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on attaque les gens parce qu'ils ont montré leur vie privée. Parce que parfois aussi, tu as des milliers de commentaires qui disent « Oui, mais elle m'a montré sa vie, donc elle ne peut pas se plaindre maintenant que je l'insulte. » Oui, tu peux donner ton avis sans insulte. Mais en fait, c'est un cercle vicieux. Dès lors que tu ouvres ta porte, vraiment la vie privée, donc moi, je te dirais, dans ce cas, bravo. bravo si on ne connaît pas ta vie privée, si on ne peut pas te jeter une pierre à un moment ou à un autre. Mais j'estime que les réseaux sociaux, c'est bien aussi pour les professionnels.
Oui, bien sûr.
Ça travaille de your personal brand. Ça travaille l'image, l'image de marque que tu as. D'ailleurs, quand on regarde, par exemple, Elon Musk, aujourd'hui, tu vois son compte sur Twitter et tu X, maintenant, j'aime pas cette appellation X. Tu vois son compte sur Twitter et tu vois son compte, le compte de Tesla, rien à voir. Je sais pas, je pense, j'ai pas le chiffre exact, mais je pense qu'il a 3 fois plus d'abonnés que son entreprise. C'est pour dire à quel point c'est important aujourd'hui d'avoir une
personal
branding. Mais après, tu peux le faire manal, mais tu mets ce que tu veux.
Exactement, mais c'est ce que je fais. Moi, je sais que j'ai un personal branding qui est très original, qui sort des sentiers battus.
Exact.
Et ça peut étonner. De c'est par ça. Mon background dans la communication et en plus de par ce que je fais aujourd'hui, parce que j'ai quand même un média.
Absolument.
Maintenant, c'est un choix qui est réfléchi et qui me convient totalement.
Parfait.
Mais je sais que demain, je me mets moi aussi à avoir des réseaux sociaux et que je raconte ma vie, que je montre mon quotidien, peut-être que j'aurai plus d'opportunités, effectivement, comme tu dis, hein, de partenariat, de sponsoring, de choses comme ça. Oui, mais à quoi bon ?
Et non, alors, mais je suis d'accord
and
avec
what
toi.
Qu'est-ce que ça va vraiment m'apporter à moi à titre personnel ? Tout dépend de l'objectif que tu as en... C'est pour ça que moi, je ne jette pas du tout la pierre aux gens qui font ça. Juste, j'aime poser des questions pour essayer de mieux comprendre.
Je te comprends.
Et voir comment toi, tu les utilises. Et est-ce que c'est quelque chose qui t'apporte vraiment du positif ? Enfin, voilà, ton regard là-dessus.
Écoute, moi, je ne gagne pas d'argent avec Instagram, pour te dire vrai.
C'est-à-dire tu ne fais pas de partenariat, de choses comme ça ?
Non, moi, je suis l'ambassadrice de certaines marques. C'est une autre approche. Je suis vraiment dans le journalisme, traditionnel, personnage média. C'est-à-dire que pendant des années, j'étais un des visages d'une grande marque, du leader de la téléphonie mondiale en Algérie. Et aussi d'une grande marque, d'une ligne. Allez, on va pas. Je sais pas comment raconter ça, mais non. Et là récemment, je viens de signer l'image pendant 2 ans avec une grande marque de lessive. Mais c'est vraiment pub télé. C'est l'image de l'ambassadeur traditionnel qu'on a l'habitude de voir dans les grands panneaux. De l'ambassadeur classe A. En fait, moi, c'était une stratégie d'image que j'ai construite pendant ces 9-10 ans, où je me disais, maintenant, il y a les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu veux faire ? Est-ce que tu veux juste être là pour être là, ou est-ce que tu veux être classe A ? Moi, dès le début, je n'ai jamais voulu faire de la figuration, que ce soit dans mon domaine de journaliste, ou maintenant en tant qu'image, que brand image et tout ça. Donc, tu ne me verras malheureusement pas, parce que c'est triste pour ma poche, mais tu ne me verras pas faire le shampoing, code promo. Bien que toutes les agences de com, j'ai beaucoup, beaucoup d'amis dans les agences de com, que ce soit à Dubaï, à Paris, les leaders, c'est des potes à moi aussi, ou en Algérie, mais tu ne me verras jamais le faire.
Et encore une fois, on n'a rien contre les personnes qui font ça.
Non, absolument
chacun
pas.
Son business,
chacun son
domaine.
Business, chacun sa stratégie.
Exactement.
Surtout.
Et qu'est-ce qu'on veut vraiment en fait apporter
Et qu'est-ce que ça t'apporte à toi ? Toi et moi aujourd'hui, on est 2 professionnels de la communication. Est-ce que ça m'apporte quelque chose techniquement à court, moyen et long terme dans mon image et par rapport à mon image de faire ce placement de produits, de shampoing, de leggings.
Mais c'est ça, tu as raison, Farah, c'est que des fois, tu refuses une proposition à court terme, mais c'est pour quelque chose d'encore meilleur à long terme.
C'est ce que je dis.
C'est pour ça qu'il faut avoir une vision et pas forcément dire oui à tout.
Exactement. Parce que par exemple, quand tu travailles avec une grande marque, là récemment, quand j'ai signé avec un gros client turc qui est en Algérie, en Égypte et tout ça, et en Turquie, la première des choses qu'ils avaient demandé à cette grande agence de communication, une des plus grandes, pour ne pas dire la plus grande dans le pays, c'était « on veut une personne classe A dans son domaine, une journaliste ».
Et c'est comme ça qu'ils prononcent, enfin, ils disent classe A ?
Bien sûr, bien sûr. Bah oui, c'est normal.
C'est marrant.
C'est comme pour les artistes. Bah oui. Et c'est comme pour les artistes. On a des artistes de classe A, de classe B. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien d'être classe B ou classe C. C'est tout dépend de ce que tu veux et ce que tu travailles comme stratégie, c'est tout.
Est-ce que la vie que tu as aujourd'hui ressemble à ce que la petite Farah de 10 ans imaginait à l'époque ?
Ouh ! Waouh ! Ah, t'as de bonnes questions, Manal.
Merci, je mets du temps à y réfléchir.
Bravo. C'est ça, bien travailler ces interviews. Bravo. On se jette des fleurs, là. On se jette des fleurs entre collègues. Oui, Dieu merci, ouais. J'ai réalisé beaucoup de mes rêves, pour pas dire tous mes rêves. C'est juste que je suis une grande rêveuse, je suis une grande ambitieuse. Donc à chaque fois, je change la liste, je rajoute des choses sur la liste. Mais jusqu'à présent, oui, je suis très, 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 très loin de ce qu'on aurait voulu que je sois quand j'étais petite. Ce que l'entourage aurait voulu que je sois. Ce que l'entourage me programmait pour.
Tu as surpassé tes ambitions ?
Je ne sais pas si j'ai surpassé mes ambitions, mais en tout cas, ce n'était pas facile. Et oui, bien sûr que je suis fière de moi aujourd'hui. Je n'ai pas honte à le dire. Avant, j'avais honte de dire ça.
Mais c'est bien d'être fière de soi, bien sûr.
Si, j'étais dure avec moi-même. Mais oui, ouais, je pense que là... Donc, il y a mes parents, il y a mes frères et sœurs, j'ai mon mari. Je fais des choses que j'aime. Je pense que la petite Farah, ouais, elle doit être comblée.
Et si tu fermes les yeux 30 secondes pour te rappeler, allez, pour te rappeler un petit peu comment était la petite Farah de 10 ans justement.
Oh, j'ai pas besoin de fermer pour ça.
Ah ouais ?
Ah oui.
À l'époque, elle avait quoi dans la tête ? C'était quoi son rêve ?
Oula ! Alors, je tiens à dire que j'aime beaucoup cette phrase, mais je l'ai jamais, j'ai jamais eu à la dire dans une interview en français, puisque c'est vraiment la première longue interview que je fais. Alors moi, je dirais de mon enfance que c'était une enfance rose. Alors, on rigole souvent, ils me disent, si tu dis rose, comme les gens du Sud, rose, rose, c'est pas ma langue, pink. C'est une enfance pink durant une décennie noire.
Ah.
C'était la décennie... Bah, moi, je suis née en 1990. C'était vraiment la période, les années 90, des années de radicalisation, de terrorisme en Algérie, malheureusement.
Une époque très difficile.
Très,
ouais.
Très difficile. Merci, tout va bien depuis longtemps maintenant. Mais,
mais toi, tes parents t'ont recréé une petite
bulle
rose.
Ah oui, j'ai eu une merveilleuse enfance. J'ai eu une super belle enfance. Merci papa, merci maman.
Quel est le plus grand souvenir que tu gardes de cette enfance ?
Oh, j'en ai plein, mais
si on avait
mes étés sur la plage. Je dis toujours que je suis une méditerranéenne, vraie méditerranéenne, et le bonheur pour moi, si je ferme les yeux, si je devais te décrire le bonheur, Manal, ça serait la mer Méditerranée. Mais vraiment, alors le son, le bruit des cigales, la Méditerranée, quand tu ressens le soleil un peu sur ta peau, c'est quand tu commences à bronzer, ça picote
ouais,
parce qu'il y a le sel
ouais.
Et l'odeur de la mer, l'odeur du iode. On dit du, c'est ça ?
Ouais, ouais, c'est ça.
C'est l'odeur de mon enfance, c'est l'odeur de mes vacances. Mon père est un plongeur de passion, donc on a
c'est
passé toutes mes vacances, tous mes étés.
Bah, je m'intéresse beaucoup à la plongée ces derniers temps,
ah
justement.
Oui ouais. J'ai jamais vraiment fait de diplôme, il me disait « papa, va faire, mais bon, flemmarde ». J'avais fait comment on appelle ça ? Des baptêmes. Voilà, j'ai fait de la plongée, mais sans plus. Tu devrais.
Non, mais je m'y intéresse beaucoup, c'est un domaine passionnant, je trouve.
On appelle ça le monde du silence, il n'y a rien
c'est
en bas.
Ça te permet vraiment de découvrir un autre monde, quoi.
Exactement.
D'être totalement déconnecté.
Tu es avec toi-même. Mon père, il fait de la plongée sous-marine en apnée. Il a fait ça pendant plus de 40 ans.
Ah ouais ?
Ah oui, oui. Hiver, été, printemps, automne, c'était sa vie pendant longtemps.
Il va falloir qu'on l'invite dans le podcast alors.
Ah ben, ça
pour
sera
en parler.
Avec plaisir. Il écrit un livre là depuis son accident. Il ne peut plus plonger.
Ouais, du coup.
Donc, il avait fait un grand championnat Euro-Afrique de plongée sous-marine. C'était la première fois que c'était sur le pas le continent africain, mais c'était au Maghreb. Première fois en Algérie, dans l'histoire de la plongée algérienne. Mais il a eu le malheur d'avoir un accident 2 mois avant. Donc, il a préparé ça pendant 3 ans.
Ah, ça, c'est dur. Hein.
Et 2 mois avant, je t'avais dit, il a eu l'accident. Mmh. Donc, maintenant, il écrit. Il écrit un livre pour retransmettre tout ce qu'il a appris sur le littoral, sur sur les dangers de la plongée.
Tu m'enverras le lien de son livre ?
Avec plaisir. On n'a pas encore édité.
Quand il sera édité, ouais.
Ouais, on
sera
cherche
publié.
Un éditeur.
D'accord.
Parce qu'il a écrit en français. Mon père est
bon,
écrit en français.
On lance le message. Je travaille avec beaucoup de maisons d'édition. Hein,
parce que
j'ai reçu
c'est
beaucoup
rêve.
D'auteurs
c'est
dans le
rêve.
Podcast.
C'est son rêve, ouais.
Donc, why not ? Je pense que ça doit être super intéressant ouais, d'avoir...
Et franchement, il a fini. Il est super fort, son livre. Merveilleux.
Et comment il va, ton papa, aujourd'hui ?
Mon père est fort. C'est un battant, c'est un combattant, c'est tout ce que tu veux. Donc, c'est de lui aussi que je tiens cette force de caractère.
Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tu lui ressembles sur pas mal de traits,
beaucoup.
Non ?
Beaucoup. Ma mère, c'est le côté humain, éducation, valeur. Elle m'a donné plein de choses, ma mère. C'est une femme aussi très forte. Mais c'est-à-dire que dans les interviews, je parle de ma carrière. C'est pour ça qu'il y a mon père qui revient à chaque fois.
Oui, oui, ouais, c'est le, comme on dit, l'énergie masculine c'est qui est normal. Un peu plus présente.
Et puis dans notre société, dans nos sociétés, c'est toujours plus facile de trouver la maman qui est avec la fille et pas forcément le papa.
Puis ce que je trouve aussi incroyable, et moi je me retrouve beaucoup dans ton histoire, c'est que ton papa était très présent en fait, dès le départ. Tu as une relation très proche avec lui parce qu'il a été présent pour toi. Il t'a accompagné.
Oui, mon père... Pour donner tout le crédit à ma mère, hein. Mon père était quelqu'un qui était très passionné par la plongée, donc il était très souvent à la mer qu'à la maison, qu'il travaillait, il était aussi beaucoup à la mer. C'est, on va dire, en quantité, qualité et quantité, c'est maman bien sûr, comme toutes les mamans, voilà, big up, à respect à ma maman. On était 4, avec un demi-frère, donc on était 5. Et elle a toujours travaillé, c'est une femme qui a fait de belles et de grandes choses. Mais mon père était présent en quantité aussi. C'est-à-dire qu'il n'était pas présent tous les jours, enfin tout le temps, pas toutes les secondes.
Mais les qualités soir, des moments que vous aviez
le soir,
ensemble.
Quand il rentrait, bien sûr, le soir quand il rentrait, il forgeait ma personnalité. Très jeune, il m'a forgée, ouais.
Après tout ce qui s'est passé pour ton papa, cette dure épreuve, mais il est là malgré tout, oui. Combattant comme tu dis. Quel est le message que tu aimerais lui donner aujourd'hui ? Quelque chose que tu n'as jamais eu l'occasion peut-être de lui dire ?
J'aime pas généralement ce genre de questions parce que j'aime pas les gens qui pleurent dans les interviews. Je fais
souvent... C'est pas du tout pour te faire pleurer.
Non, je sais, mais c'est plus fort que moi. C'est... j'aime pas les gens qui pleurent dans les interviews et là, depuis quelques temps, je commence à être comme eux.
Ça, c'est la trentaine, c'est pour ça.
Je pense que c'est ça, ouais. Depuis que j'ai 30 ans, là, ça fait 3 ans que je suis...
Le lâcher prise.
Et il y a quelqu'un derrière moi qui rigole.
Qui acquiesce.
Et il dit, ah, t'arrêtes pas de chialer, t'arrêtes pas de pleurer. je le dis souvent, mais j'aimerais bien le redire aussi devant une caméra, tu vois. Je dis souvent à mes parents, j'ai pas choisi mes parents, personne ne choisit ses parents. Vraiment, hein, je suis très honnête sur ce que je vais dire. J'ai pas choisi mes parents. J'ai pas choisi où naître, j'ai pas choisi le quartier, l'endroit, la période de radicalisation, j'ai pas choisi tout ça. Mais si je pouvais choisir et re-choisir et re-re-choisir, peut-être que je changerais plein de choses, mais jamais mes parents. Vraiment, c'est pas parce que genre c'est mes parents. Il y a des gens qui font, oui, parce que... Non, c'est pas parce que c'est mes parents. Parce que, Dieu merci, j'ai eu la chance d'avoir ces parents-là. Dans le contexte dans lequel j'avais grandi, dans l'entourage... Surtout dans lequel j'avais grandi, j'aurais pu être tout, mais à des années-lumière de qui je suis aujourd'hui. Donc oui, donc je voudrais leur dire merci. Et j'espère que je les rends fiers. En tout cas, je fais tout pour, depuis plusieurs années.
Je sais que toi, voilà, la famille, c'est important. Tu es peut-être aussi dans l'optique de fonder ta propre famille.
Oui.
J'aime beaucoup cette question parce que ça nous permet vraiment de faire le point un peu, si j'ose dire, sur l'éducation qu'on a eue. Toi, Farah, dans l'éducation que tes parents t'ont transmise, si tu devais reproduire une seule chose hyper importante à tes yeux avec ton propre enfant, ça serait quoi ?
Une seule ?
Une seule. Bah oui, sinon, s'il te plaît. Sinon on va rester une heure encore à parler de ça.
Ah, mais moi j'aime bien ton interview, oui, c'est vrai, que je pars aussi. Merci, au revoir.
Malheureusement, alors, on a une durée limitée.
Alors, mais... une chose, je dirais la communication.
Ah ouais.
Le dialogue.
Ouais.
Mon père, vu de l'extérieur comme ça, tu sais, c'est un homme fort de caractère. Les gens étaient un peu craintifs, toujours. Ils pensaient que c'était... Alors que nous, on a beaucoup, beaucoup communiqué, ma mère aussi. Donc, beaucoup de dialogue. Je pense que je ferai la même chose, d'ailleurs, même dans ma vie de tous les jours, avec les gens que j'aime, donc mes frères, mes sœurs, mes amis intimes. Et en général, je communique beaucoup avec les gens. Je pense que c'est important de savoir communiquer.
Tu en as même fait ton métier ?
Absolument. C'est quelque chose de super important. Plein de choses, j'ai réussi plein de choses grâce à la communication. Il y a plein de choses que je n'aurais pas pu avoir sans la communication. Et même dans mon couple, c'est très important. Donc, je leur apprendrai, je leur parlerai et je les écouterai, comme ont fait mes parents.
Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour que Farah, la femme, soit totalement accomplie ?
Ça va aussi tourner autour de la famille, bizarrement. Parce que tu sais, ma carrière, je la fais, je la refais, je la refais. Je suis une grande ambitieuse, il n'y a pas de problème.
Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas peur de recommencer des
Absolument.
Choses.
Absolument. Je l'ai fait en 2018, quand je suis partie à Dubaï. Et là, j'ai fait une pause de presque 2 ans, quand même. Et c'est un peu dur, hein. Je me dis, attends, peut-être que... Avant-hier, je disais à mon mari, attends, peut-être que j'ai vieilli, peut-être que je suis has-been, peut-être que les gens voudront plus de moi. Il me dit, mais qu'est-ce que t'as, t'es pas comme ça d'habitude. Donc tout ça, c'est gérable, mais c'est être loin de ma famille, tu vois. Mes parents sont à Alger, mon frère est en Espagne, mes deux sœurs sont en France, une à Brest, une à Lyon. Moi, je suis entre Paris et Dubaï. Et donc, en fait, tu m'arraches ma famille, tu m'arraches une grosse partie de qui je suis. Donc, on se parle tous les jours, ça, c'est clair. Mais j'aurais rêvé, mais la vie fait parfois que, voilà, nos ambitions, voilà. J'aurais aimé pouvoir vivre dans une grande maison tous ensemble, prendre le café de l'après-midi avec...
Une grande propriété, avec chacun sa maison, c'est ça ?
Ouais.
Ça serait bien, non ?
Non, ou juste notre grande maison, parce que... La maison de mes parents, elle est grande, elle est chaleureuse.
Moi, je dis une propriété pour avoir plus d'intimité.
Oui, bien sûr, bien sûr. Des fois, je pense à ça. Je dis parfois à mon mari, viens, on prend une grande maison. Nous, au milieu, avec les enfants, un côté, un appart pour tes parents, un appart pour mes parents, et on se retrouve dans le jardin. Ouais, mais la légèreté, ce qui me manque, c'est la légèreté de la vie, de quand t'es avec ta... Même les embrouilles qu'il peut y avoir autour d'une table pour le dîner.
L'ambiance familiale. Mmh. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui t'émeut.
Beaucoup, ouais.
Pourquoi ? C'est quelque chose à laquelle tu penses en ce moment ?
Pardon. Non, c'est... This is who... Pourquoi je parle en anglais ? Tu vois, je perds mes moyens, je parle en anglais.
Pourquoi
là.
Ça t'émeut autant, Farah ?
Non, parce que je... Moi, j'ai jamais pensé quitter l'Algérie, tu vois. Je ne l'ai pas quitté, en tout cas. Je parais genre, non, mais j'ai jamais eu l'idée d'immigrer ou de partir, d'émigrer, non. J'étais très... Je fais partie de ceux qui vivent très bien en Algérie. Et ouais. Dieu merci, on a des millions qui vivent bien. On ne veut pas être ailleurs. Mais après, c'est mon ambition qui m'a...
C'est quelque chose que tu regrettes, avoir quitté l'Algérie ?
Non. Non, mais c'est juste les moments passés sans les parents, les heures, les... Pardon. C'est peut-être les heures, les mois qui passent de leur vie, qui partent.
C'est quelque chose, ouais, qui te...
Ouais, c'est des mois, c'est des années que tu peux passer avec eux, mais c'est des moments volés, quoi. Voilà, c'est plus les moments volés avec mon frère, mes sœurs... Mes parents, c'est plus ça.
En même temps, la vie, c'est des choix.
Ouais.
Et peut-être qu'à l'époque, lorsque tu es partie à Dubaï, tu n'avais pas encore ces idées-là parce que toi, tu avais d'autres ambitions.
Tu sais, j'ai toujours été comme ça. Quand je venais en France une petite semaine, je pleurais. Oh, je rentre chez moi. L'odeur d'Alger. Je suis très, très attachée à Alger. Mais en même temps, je me sens bien ici. Je me sens bien à Dubaï. Pas de problème. Je suis vraiment une vraie citoyenne du monde. Mais... Si je pouvais juste... J'ai fini par
c'est
comprendre...
C'est tes parents, en fait, qui te manquent.
J'ai fini par comprendre avec le temps que ton pays, c'est vraiment là où tu te sens bien et là où il y a ta famille. C'est-à-dire, j'aurai toujours l'Algérie dans mon cœur, ça c'est clair, et j'espère être une bonne ambassadrice de ce beau et grand pays. Mais s'il y avait mes parents avec moi, j'aurais pas versé ces larmes.
Mais il faut emmener tes parents à Dubaï avec toi.
Oui, mais eux aussi, ils ont leur vie. Tu peux pas les obliger aussi.
Oh,
c'est-à-dire, tu les emmènes. Non, non, on le fait parfois. Ils viennent, ils restent 2-3 mois avec moi. Ils viennent, ils font des allers-retours. Mais la vie, c'est pas que 2-3 mois.
C'est ça, ouais, je sais. C'est les moments du quotidien.
Mais c'est dans les plans de les emmener un peu à Dubaï. Maintenant, ma mère a pris sa retraite après 41 ans de service.
Bon, déjà, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a plus de liberté,
oui.
De flexibilité.
Bon, connaissant ma mère, elle prenait plus de... Comment on appelle ça de... How do we say it in French quand tu es malade.
Ah oui, des arrêts maladie.
Des arrêts maladie, quoi de chose. Donc, elle pouvait voyager même avec ça.
D'accord.
Non, je peux le dire, elle est à la retraite.
Ouais. Mais je comprends totalement. C'est vrai que même en tant que femme, surtout, j'ai l'impression d'être toujours déchirée par ces deux choix.
Oui.
Est-ce que je dois partir pour une meilleure vie, pour créer ma carrière, partir quelque chose qui me tient à cœur? Ou est-ce que je dois rester auprès de mes parents, auprès de ma famille, pour pouvoir être tout le temps avec eux et
ouais.
ne pas louper ces moments qui sont chers à mon cœur?
Oui.
Et je pense qu'en fait, il n'y a pas de choix parfait.
Non.
L'un comme l'autre, à un moment donné, on aura des regrets.
Absolument.
C'est ça le truc. C'est difficile. Hein.
C'est difficile et tu sais, surtout quand tu es très proche de ta famille. Il y a des gens pour qui c'est difficile pour tout le monde, mais il y a des degrés.
Moi, je sais, je suis très très proche de ma famille.
Ouais, il y a des degrés, ouais.
Un degré plus, plus, plus.
Ouais, donc tu me comprends.
Je te comprends
totalement. Donc tu me comprends,
ouais.
Et parfois, quand les premiers mois à Dubaï, je m'en voulais beaucoup, je me disais, mais je déteste cette ambition que j'ai. Pourquoi j'aurais pas été... Je disais souvent ça, je disais, je déteste cette ambition que j'ai, et quand mes sœurs aussi, chacune est partie pour ses études, moi c'était pour ma carrière... Et je me disais, je la déteste parce qu'elle fait de nous des étrangers, chacun dans un pays, chacun quelque part. Et je m'en voulais. Parfois, je me disais, j'aurais aimé être une fille normale. Parfois, quand j'étais énervée, je disais banale, alors que personne n'est banal. Mm. Mais je me disais, parfois, j'aurais aimé être une fille sans grandes ambitions, qui mange, qui dort, qui... Voilà. Et je sais que c'est pas... Pour moi, c'est pas stimulant.
Tu n'aurais pas été heureuse d'une certaine
manière. Non, c'est pas stimulant, non. Parce qu'au final, là, j'ai fait une année sabbatique, tout va bien. Mais il est grand temps que je revienne, parce que là, je commence à dire « Oh non, mais j'ai trop tardé, il faut que je revienne. »
Ouais, là, on sent que t'as envie de revenir.
Ah
là.
Oui, oui, ouais. Oui.
Tes parents, ils en pensent quoi de tout ça, Farah ? Est-ce qu'ils t'en parlent ? Comment ils voient ta réussite dans le travail ?
Est-ce
qu'ils t'encouragent ? Est-ce qu'ils te soutiennent dans tout ça ?
Oui, absolument. C'est les tout premiers à me soutenir. Ça sera mes parents, c'est vraiment les premiers qui m'ont soutenue, qui m'ont compris. Encore fallait-il comprendre. Ouais. Il faut vraiment mettre les choses dans le contexte. C'est-à-dire, moi, j'étais dans un quartier populaire. Quand je disais aux gens mes rêves, ils disaient « Ouais, mais t'es folle, mais tu parles de quoi, là ? Tu vas être à la télé, mais t'es qui ? T'es personne, t'es la fille de personne. Tu sais pour qui, ça ? C'est pour l'élite du pays, c'est que pour les fils d'eux et les filles d'eux. » Et donc, c'était déjà un mindset qui était très, très loin de ce que je vis actuellement et ce que je vis depuis 12 ans. J'ai parfois l'impression que mes parents ne suivent pas dans le sens où ils me voient... C'est normal, ils me verront toujours comme leur fille. Et donc, c'est quand les gens leur parlent qu'ils réalisent « Ah oui, non, mais attends, mais ah oui, mais ma fille, c'est... » Parfois, au début, je disais à maman « Maman, n'oublie pas, je suis un personnage public. » Des fois, elle avait tendance à oublier, mon père aussi. Donc,
ne dis pas n'importe quoi, ne raconte pas à tes copines.
C'est ça, c'était « Ne raconte pas à tes collègues des choses sur moi, maman. »
Ben oui.
Et maman me dit mais attends, mais je dis « Maman... » Donc, il y a des moments où... sinon, mon père, avec son gros caractère, quand il veut... Te savonner un peu, parce que même comme ça, il me savonne parfois, tu vois.
Mais c'est bien, ça fait du bien d'avoir
oui,
des gens qui
voilà.
Me savonnent un peu.
Oui, donc mon père, tu vas pas croire que parce que t'es, je sais pas quoi, il me disait ça. C'est pas parce que t'es à la télé.
Il y a le son algérien, Farah, qu'il ne faut pas oublier.
Et tu vas pas faire la star à la maison. Hein. Et parfois, c'était dans la voiture, tu vois, papa, attention, les gens me reconnaissent. Et alors, ils te reconnaissent, je suis ton père, je dis ce que je veux. Et parfois, il me le fait encore. Parfois, il fait des petits scandales, des petits trucs comme ça dans la voiture. Et moi, je suis là, papa, attention, les gens me reconnaissent. Oui, alors, et alors ? Attention, papa. Parce que voilà, parce que c'est normal. Tes parents, ça sera toujours tes parents. Mais les gens dehors, ils te voient comme le role model. Comme
mais c'est bien, ça permet de garder la tête sur les épaules et les pieds sur terre.
Ah, ça, c'est ma mère. Ah, ça c'est ma bien. Mère. C'était ouais. Son travail, ouais. C'était son travail. Tu n'oublies jamais d'où on vient, tu n'oublies jamais qui t'es, tu n'oublies jamais tes voisins. C'est pas parce que tu traînes avec des CEO de je sais pas quoi que là, la voisine, la pauvre, parce qu'elle va faire un mariage, tu vas pas venir. Et moi, j'étais là, j'étais « Oui, mais maman, je peux pas, j'ai un agenda. » « Non, 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 je veux rien savoir. »
« J'en ai rien à faire de son agenda. Tu le balances par la fenêtre.
» Ouais, ouais, non, non. Donc voilà.
Est-ce que tu penses que tes parents sont fiers de toi aujourd'hui ?
Oui, oui. Moi, tu sais, je suis curieuse des formations professionnelles. Je pose beaucoup de questions, journaliste. Papa, t'es fière de moi ? Au début, ça leur faisait bizarre. C'est quoi ces questions ? Papa, tu m'aimes ? T'es fière de moi ? Maman, tu m'aimes ? T'es fière de moi ? Non, non, il le sent. Il le sent, ça va.
Quelle est la chose que tu aimerais que les gens sachent ou comprennent mieux à ton sujet ? Quelque chose que tu ne montres pas forcément aux yeux du grand public ?
Quelque chose que je voudrais que les gens sachent sur moi.
Comprennent mieux.
Que... Alors, t'as deux choses. Les gens qui m'aiment et qui me suivent, parfois je suis très loin des réseaux. J'ai mes réseaux, mais souvent on ne me voit pas pendant 3-4 mois. Je ne fais pas de story, je ne fais rien. Et parfois, ils me disent qu'on se sent délaissé. Donc, j'aimerais bien qu'ils comprennent que ce n'est vraiment pas parce qu'ils passent en deuxième plan, mais c'est juste que je suis quelqu'un qui est plus dans l'instant présent, dans la vraie vie que les réseaux. Mais c'est aussi de vraies personnes, une vraie communauté. C'est des gens qui m'aiment vraiment à travers les années. Et donc, je voudrais qu'ils comprennent, je voudrais qu'ils sachent que ce n'est pas contre eux quelque part. Ce n'est pas parce que je n'aime pas leur parler, mais c'est... Parfois, je leur dis, je fais une story demain. Demain, je vous raconte, puis je disparais un mois. Et parfois, tiens, c'est un truc un peu... Je n'ai jamais dit devant une caméra, mais... Parfois, je suis un peu tête en l'air. Et c'est pas parce que je ne donne pas d'importance à la chose, mais parfois, je suis vraiment dans mes idées, dans ma tête, et je me perds, et j'oublie. Parfois, je dis aux gens que je vais les rappeler, je ne les rappelle pas. Et c'est pas être nonchalant, mais c'est juste être vraiment dans les nuages. Je suis très souvent dans les nuages et j'oublie parfois des rendez-vous, j'oublie des gens. C'est vraiment en rien un manque de respect, mais pas du tout. Mais j'ai fini par accepter que this is who I am, je suis comme ça. Voilà. Je suis
Les gens savent, oui. Il n'y a rien contre eux.
Parfois oui, parfois les gens me disent ouais mais tu m'as pas répondu sur WhatsApp, mais c'est sérieux, c'est-à-dire ça prend parfois
des grosses proportions.
Et j'ai peur qu'on pense que je prends de haut la personne, ou j'ai peur qu'on pense que je ne prends pas au sérieux la personne, ou que je manque de considération. Pas du tout, c'est juste que je suis honnêtement parfois dans les nuages. Je suis une grande rêveuse, je suis dans mes idées, je suis dans ma bulle. Avec le temps, j'ai compris à comprendre ça et puis à accepter ça.
Ouais. J'aime bien le fait que tu sois un peu dans ta bulle et dans tes rêves, parce que moi, je suis comme ça aussi.
C'est vrai ?
Ouais. C'est peut-être pour ça aussi que je suis très private,
ouais.
Parce que j'aime bien être, voilà.
Je vais te faire comme font les gens à Dubaï. T'es de quel signe ?
Je te le dirai.
Parfait.
Voilà.
Ah oui, private jusqu'au bout. Private bravo, jusqu'au bout.
Et comme ça, on verra est-ce que c'est compatible ou pas. On fera nos pronostics.
Je noterai et je demanderai aux
gens
là-bas.
Moi, je ne connais pas très bien. Donc,
voilà. C'est vrai. Je ferai l'enquête pour toi, je demanderai.
Alors Farah, je t'ai demandé d'apporter quelque chose de spécial aujourd'hui,
oui.
Un objet qui a une valeur sentimentale à tes yeux,
oui.
Et de nous raconter un petit peu l'histoire qui se cache derrière cet objet.
Oui, et je n'ai malheureusement pas fait ça, parce que tu sais que je suis entre Dubaï et Paris.
Non,
il n'y a pas que ça. Oui, ça c'est vrai, mais sur le coup, pour le coup là, c'est que mes affaires sont à Dubaï. Donc ouais. Ma vie est entre parenthèses à Dubaï.
Mais tu as quand même décidé de nous parler de quelque chose,
oui,
en particulier.
Oui, parce qu'au final, tu sais, au final... Il y a des objets qu'on porte sur soi, il y a des objets qu'on porte en soi.
Oh, c'est vrai, joli. C'est joli.
Ah, pour une langue étrangère, ça va, je me débrouille.
Moi, je te dis, you rock. J'aimerais beaucoup parler anglais et arabe comme toi, tu parles français, hein, honnêtement.
Merci. Il y a des choses qu'on porte en soi. Et moi, c'est le souvenir de ma grand-mère que j'ai de plus cher. Après, j'ai des objets qui lui appartenaient, qu'elle m'avait donné. J'ai un bracelet, un ancien bracelet, vraiment de la fin 1800, qui appartenait à sa mère, et je pense à sa grand-mère aussi. Ma grand-mère est née en 1920, et elle est morte en 2014, à l'âge de 94.
Wow, donc elle avait une belle et longue vie.
Belle et longue vie, oui. Ouais. Et elle m'a beaucoup appris. Elle nous a tous beaucoup appris dans la maison. Et elle avait un bracelet un peu plat, tu sais, en argent, qu'elle a enlevé de sa main, de son poignet, pardon, et qu'elle m'a donné. Et je me rappelle que je l'avais gardé toutes mes années, fin fac, début de carrière. Et je le garde encore, bien sûr. Et sinon, j'avais aussi, à sa mort, j'avais mes sœurs et moi avons gardé chacune. Alors, je ne sais même pas comment ça s'appelle en français. Tu sais, on appelle ça « baleta ». En Algérie, mais ça doit être quelque chose qui ressemble à quelque chose en français. Tu sais, c'est les petites écharpes, pas écharpes, mais les petites choses qu'on met
sur...
Ouais, mais en laine.
Une
cape en laine.
D'accord.
De grand-mère.
D'accord.
Voilà, et quand je la mettais, ma sœur aussi, pour son mariage, elle l'avait mis. On sent qu'on a les épaules réchauffées, qu'elle est là, quelque part. Ouais.
Ouais, c'est très joli. Ta grand-mère avait une place importante dans ta vie.
Très, très importante. Ma grand-mère n'était pas la grand-mère biologique. C'était pas la mère de maman, c'était sa tante, la sœur de sa mère.
D'accord.
J'avais une grand-mère, biologique que j'aime beaucoup aussi. Donc une s'appelait Mémé, une Mamie pour faire la différence.
D'accord.
Donc c'était la maman de maman et la tante de maman.
Mais c'est la tante de ta maman avec qui tu avais cette relation-là.
Absolument. Elle ne pouvait pas avoir d'enfant, donc elle a décidé de donner sa vie à ses neveux, enfin à son neveu et sa nièce, qui est ma mère et mon oncle.
D'accord.
Donc ma grand-mère, la vie a fait qu'elle a dû refaire sa vie, mais elle était aussi présente bien sûr pour eux. Et elle était là à Paris. Ma grand-mère a vécu longtemps et elle est décédée à Paris. Mais du coup, en Algérie, il y avait ma grand-mère, donc sa sœur, la tante de maman qui était là. Et donc, ma mère était orpheline. Elle avait que... En Algérie, elle n'avait que cette tante, qui était sa mère, qui était son père, qui était tout. Et pour nous, c'était tout. Donc, du côté paternel, on avait, allez, je ne sais pas, 200, 300 cousins, mais vraiment pour pas exagérer. Et du côté maternel, on avait qu'elle. Et je peux t'assurer qu'elle fait le poids et même plus. Que si je pouvais mettre ma grand-mère d'un côté et tout, avec tout le respect que je leur dois, tous les oncles, cousins, tantes, je sais pas quoi, du côté paternel, que j'aime beaucoup, ils font pas le poids. Tous comme ils sont, ils peuvent pas faire le poids de cette grande dame. Donc cette dame était magnifique, elle nous a beaucoup appris ce côté humain, ce côté la fidélité, c'est elle qui m'a appris. J'ai toujours vu ma grand-mère aller visiter chaque vendredi la tombe de sa mère qui est morte 32 ans avant.
Ah ouais.
32 ans auparavant, chaque jour que Dieu faisait, elle nous parlait d'elle. Chaque jour avant de dormir, elle parlait d'elle, elle priait pour elle. Elle disait, Dieu, accueille-la dans ton paradis. Chaque jour que Dieu faisait, je voyais un exemple de fidélité devant moi. That's why. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, presque 10 ans après, ma grand-mère, elle est toujours présente. Tu verras tous mes amis, même mon entourage qui ne connaissent pas cette femme, qui n'ont pas rencontré dans la vie, ils savent, ils connaissent ses détails, ils peuvent te faire, ils peuvent te dresser le profil de cette femme, à quel point elle est importante pour moi.
J'en ai la chair de poule en tout cas. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous, Farah. Prie. C'était quoi son prénom ?
Zouina, qui veut dire belle.
C'est un très joli prénom en plus.
Ça veut dire, à l'ouest algérien et au Maroc, ça veut dire belle.
Belle, voilà. Zouina.
Zouina.
On lui rend hommage à Zouina à travers ce podcast.
Et on rend hommage aussi à Zaya, sa sœur, qui veut dire joyeuse. Donc de ma grand-mère, de mémé, la maman biologique, j'ai pris le côté la joie de vivre. Elle était super en communication. C'était une bombe en communication, ma grand-mère. Et sa sœur était d'une grande générosité. Donc je pense qu'on a eu un peu les deux.
Merci d'avoir partagé tout ça avec nous, vraiment.
Merci,
c'est
Mana,
très touchant.
C'est normal, je sais pas. Je me sens à l'aise dans ton podcast, donc je m'ouvre.
Bah, tu le sais, on a un petit rituel de fin dans ce podcast qui est les questions rafales. Donc c'est simple, je vais te poser une série de questions très rapides. Le but, c'est de répondre le plus spontanément possible sans trop réfléchir.
Parfait.
Ça dure pas longtemps, ça dure 1 minute 30, 2 minutes maximum.
Vas-y.
Est-ce que tu es prête, Farah ?
Attends, je fais le... Ok, je suis prête.
Ok, c'est parti. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin ?
Mes prières.
Quel est le dernier livre que tu as lu ?
Entouré par des... Alors, Surrounded by Idiots, je sais pas en français. Entouré d'idiots.
J'adore le titre. Quelle est ta dernière folie financière ?
J'ai arrêté, ça fait un an. Depuis mon mariage, mon mari me rééduque financièrement.
Qu'est-ce que tu fais dans les moments de très très grosse déprime ?
Je pleure tout le temps, ils en ont marre de moi.
Quelle est la mauvaise habitude dont tu aimerais te débarrasser ?
Je suis flemmarde et je ne sais pas si ça peut se dire bordélique. Oui. Voilà, je jette tout partout.
Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné ?
Reste qui tu es.
Et le pire conseil que tu n'aurais jamais dû suivre ?
Quand t'as de l'argent, gaspille-le, on vit qu'une fois.
Quelle est la chose à laquelle tu crois et que les autres considèrent comme une folie ?
La positivité absolue. Voilà.
Quelle est la chose que tu remets toujours au lendemain ?
Tout.
Tout ?
C'est mon défaut, ouais.
Ah oui. Tout ? Absolument
tout. Si j'ai un rendez-vous, si je peux le décaler et à demain, après-demain, je le ferai.
I'm so glad you're here.
Yeah, I am. I'm happy to be here.
Quel est le luxe dont tu ne pourrais jamais te passer ?
Le soleil.
Quel est l'endroit où tu aimes aller pour te ressourcer ?
La mer.
Si tu avais 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi tu les investirais ?
Oh, c'est pas beaucoup quand même, tu me donnes pas beaucoup.
Non, 100 euros et pas un de plus. C'est là que ça commence, Farah, l'éducation financière.
Oui, justement. Avant, je t'aurais dit autre chose. Là, je te dis à mettre dans mon projet.
Quelle est ta plus grande peur ?
De perdre mes parents.
Qu'est-ce qui t'agace le plus chez les autres ?
L'hypocrisie, le mensonge.
Qu'est-ce qui est le plus algérien en toi ?
Ma colère. Quand je mens, mon mari dit « Quand je mens trop !»
Quelle est la dernière fois où tu as menti à quelqu'un et pourquoi ?
Avant-hier, pour une question d'heure. Mon mari il dort tôt, je voulais qu'on regarde un film, donc j'ai menti. J'ai diminué de 2 heures, il était énervé, mais c'est un principe, faut pas mentir.
Quelle est ta Madeleine de Proust, quelque chose qui te rappelle automatiquement ton enfance?
La mer, le soleil, la plage.
Qu'est-ce qui te met vraiment très en colère?
Le manque de respect. Aucune tolérance pour le manque de respect. Zéro.
Quel métier tu ne pourrais jamais exercer et pourquoi?
Les horaires de bureau, je peux pas. Les horaires de bureau, je ne peux pas.
Et pourquoi?
J'ai besoin d'être libre. J'ai besoin d'être créative, de bouger, de revenir, de... Je sais pas. Ça m'étouffe.
Selon tes proches, quelle est ta plus grande qualité?
Générosité, ils disent.
Et selon toi, quel est ton plus grand défaut?
Générosité. Non, mon plus grand défaut, c'est que... j'en ai plein.
Si tu devais en choisir un seul?
Bordélique.
Ça revient beaucoup, le bordélique.
Oui, parce que c'est pas bien.
Quelle est la dernière chose que tu fais avant de dormir?
Je pose mon téléphone. Et je... Ça dépend, franchement, ça dépend des jours. J'ai pas envie de la faire de façon parfaite. Ça dépend des jours.
Qu'est-ce que tu as fait, par exemple, hier? La dernière chose que tu as fait avant de dormir?
Hier, je me rappelle plus. Je pense que j'étais sur WhatsApp. Mais généralement, j'essaie toujours de commencer avec ce que j'appelle prière, c'est-à-dire dans mon lit. C'est pas la vraie prière technique que je fais après. C'est vraiment dire, like, thank you for everything. Je sais pas comment on appelle ça en français, mais j'essaie d'ouvrir et de fermer ma journée avec. Donc, techniquement, je dois faire ça, mais cette semaine, je ne l'ai pas fait, je ne vais pas mentir.
Merci beaucoup, Farah.
Merci,
d'avoir répondu à toutes mes questions et de t'être prêtée au jeu des questions rafales. Je trouve que tu t'en es super bien sortie.
C'est vrai, tu trouves?
Ouais.
Ah, ben j'espère que je ne regretterai pas après.
C'est bien, c'est du tac au tac.
Pourquoi j'ai pas dit ça?
Ah, bah, si à la dernière question, peut-être.
Ah oui, justement, bah, sinon, ça ne serait pas drôle. Et là, j'ai l'impression que la dernière question, je me dis, mais Farah, c'est quoi cette réponse pas intelligente? Pourquoi t'as pas dit, je fais ma prière?
Alors, non, mais ce que j'aime justement, c'est le côté spontané des questions rafales.
Oui.
Et en tout cas, c'était un vrai plaisir, vraiment, de discuter avec toi, Farah.
Merci.
Je dis, honnêtement, j'aurais pu rester encore tout l'après-midi avec toi.
Ah, ben franchement, moi aussi.
Il y a beaucoup de questions que je ne t'ai pas forcément posées.
On remet ça
une autre fois, c'est ça. Quand tu sortiras ton livre?
Avec plaisir.
Why not?
Ah, ça, c'est pas... Ah, c'est une bonne idée, ça. Comme ça, ça va me booster à le faire et ne pas remettre le travail...
Au lendemain.
Au lendemain et à l'année d'après.
Je sais qu'on a parlé de beaucoup de choses, beaucoup de sujets, mais est-ce que toi, Farah, il y a quelque chose dont tu aurais aimé parler qu'on n'a pas forcément abordé?
Non, franchement, j'aurais aimé parler de la spiritualité, de ce côté que la personne développe... avec elle-même, et tu l'as abordée.
D'accord.
Donc, je te remercie, ouais.
Dernière question pour finir avec cet entretien. Une question super importante, puisque c'est, on va dire, le purpose. Hein, pourquoi j'ai lancé ce podcast?
Ouais.
Quelle est la leçon que tu as apprise ces dernières années et qu'on n'apprend pas sur les bancs de l'école?
Waouh. J'ai appris que tout est possible, mais honnêtement. C'est pas un beau discours d'Instagram. Que tout est possible when you try, quand tu fais des actions pour, quand tu essayes, quand tu te lèves le matin et tu dis ok, là pour l'instant j'ai rien, mais je vais essayer d'avancer petit à petit, step by step, baby steps, des petites steps. C'est féminin ou masculin ou step en français?
Étapes.
Des petites étapes, tout simplement.
Des petits pas, ouais.
Oui,
des
petites stratégies à court, moyen et long terme, de croire que ton passé n'a rien à voir avec ton avenir, si tu décides d'en faire quelque chose de beau. Ça, je l'ai appris parce que je l'ai fait, parce que beaucoup de gens autour de moi le font et parce que je continuerai à le faire.
Je pense que c'est une excellente façon de clôturer cet entretien.
Ah ben, ça va.
Merci beaucoup, Farah Yasmine, pour cette conversation que j'ai adorée.
Merci, Manal, j'ai vraiment adoré et on se voit après le livre.
Of course.
Of course.
Peut-être même à Dubaï, avant.
Welcome, welcome. Je te ferai le tour, je serai le guide.
Merci encore, Farah.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh.
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.